Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Shapeology, podcast dédié au surf, aux planches et au métier du shape. Aujourd'hui, on discute avec Renaud Cardinal, shaper depuis les années 90 à La Rochelle, où il commence le shape dans le garage de ses parents avant de créer un premier atelier avec son frère, UWL Surfboard. Cet atelier deviendra un des ateliers les plus renommés d'Europe, que ce soit pour le shape comme pour le glass. Ils développeront par la suite leurs autres marques, Cardinal et Addiction. Enfin et surtout, ils créeront le Shapers Club, un réseau de shapers renommés venant du monde entier et accueillis chaque année en résidence dans l'atelier des frères Cardinal pour y shaper leurs planches qui seront ensuite glacées et vendues sur place. Un sacré parcours qu'il vous expliquera mieux que moi dans la première partie de l'épisode. On y parle entre autres de l'organisation de l'atelier, du rôle de la machine, de leurs différentes marques et des collaborations et projets qu'ils développent. Dans la deuxième partie de l'épisode, on reparle du Shapers Club avant de visiter l'atelier actuel d'Angoulins et de discuter du projet de création d'un nouvel atelier à Marennes, un véritable lieu de vie dédié au surf et au shape actuellement en travaux. On parle aussi de leur approche de l'écologie, des influences de Renaud en tant que shaper et de son approche du shape. Passez sur notre compte Instagram shape.ology et sur notre site shapeology.fr pour retrouver tous les liens et photos de l'épisode. Et maintenant, place à Renaud. Bonne écoute!
Présenter ouais. Ton
ben moi donc Renaud Cardinal, shaper, de moins en moins surfeur, fin méloman en hardcore, artiste martial, père de famille, j'ai été très longtemps cuistot aussi, okay. Et cuistot pour la boîte hein. Et puis voilà, passionné par la fabrication de tout et de rien, mais un peu plus la fabrication de planches de surf. Okay. Ouais. Et ben voilà, donc j'arrive à 50 ans et ça fait 33 ans que officiellement je fabrique des planches de surf. Okay.
Donc officiellement, parce que ouais, t'en faisais avant.
Disons que j'ai commencé comme beaucoup de gars. En fait, la boîte date de l'ouverture en 92 et j'avais 17 ans, j'étais encore au lycée. Okay. Donc voilà, comme je disais, la planche qui est là, c'est la planche de mon père, c'est sur laquelle j'ai appris à surfer, elle fait 15 kilos. Donc mon père, c'était les années fin 70, 60, 68, il était à l'eau dans le coin et il surfait avec cette espèce de tronc là qui fait 15 kilos. Et c'est avec
comme on faisait en 68.
Ouais, zéro plug, tu vois, l'enfer quoi. Lui, il était infirmier à l'époque, il terminait son service et puis il y avait une caserne d'Américains encore ici et en repartant, les mecs ils ont laissé des boards et du coup, il a récupéré les planches et puis il s'est mis un petit peu à surfer. Il s'est jamais été un grand surfeur, mais c'était un des premiers, puis il nous a quand même pas mal donné envie d'en faire. Quand on allait à la plage, on allait surfer.
Parce que surtout à cette époque, ça commençait à être bien implanté dans le Pays Basque, mais est-ce que ici
Tu vois, il y en avait deux. On a gardé la Barlandrotte, donc ouais. C'est quand même une Barland. Ouais. Une des toutes premières, une Barlandrotte. Et le deuxième petit truc, c'est que donc ma mère est rétaise, mon père est d'ici, et ils avaient un grand appart, plateau de la Talaye. C'est juste à côté du petit port de Biarritz. Okay. Et donc, en juillet, on partait une semaine ou deux et on allait se baigner. Donc, je parle de ça en début des années 80. On allait se baigner à la Grand Plage ou à la plage des Basques. Et il est arrivé à un moment ou à un autre, je ne sais pas où, mais dans Biarritz, des espèces de glisse-vagues, une espèce de planche en mousse polystyrène. Okay. Et mon père a acheté ça et on s'est éclaté avec mon frère et on a commencé à avoir envie d'eux. Et après, voilà, tout doucement, progressivement, quand on s'est un peu étoffé au niveau du gabarit, on a commencé à prendre l'espèce de tronc là, et puis on a essayé de se mettre à surfer. Donc moi j'ai appris principalement au début, j'ai appris à la Grand Plage.
À la Grand Plage, ouais. En fait. Ok. Et vous, voilà. Par contre, vous viviez déjà ici?
Ah ouais, on a toujours été arrêté, on n'a jamais arrêté. On vivait à La Rochelle, mais sinon on passait beaucoup de temps dans l'île de Ré ou à la côte sauvage de la Palmyre Royan. Okay. C'est là où j'ai appris à surfer aussi, quoi. Donc j'avais deux spots où on allait assez régulièrement. Après, bon, années 80, c'est-à-dire t'as pas de combi, tu surfes l'été. Tu as vite froid parce que tu es un gamin et tu es en short. Ce genre de truc, quand ça plante, mec, ça monte 2 mètres en hauteur et ça redescend, ça te pète une tête. Hein, ça fait 15 kilos. L'aileron, c'est un défense qui est tranchant comme la mort. C'est très dangereux comme planche, en fait. Et tu es vite dégoûté. Donc, j'ai pas fait une carrière avec ce genre de board. Ouais. Mon père n'était pas spécialement patient non plus. Donc, quand j'arrivais pas à ramer, pas à prendre une vague ou qui me poussait et que je me tolais, on faisait ça 3-4 fois et après ils disaient quoi, tu sais, t'es mec, bah laisse tomber le surf hein, et puis va jouer sur la plage. Donc c'était assez énergique comme okay. Apprentissage.
Voilà. Mais t'as quand même pas lâché l'affaire.
J'ai pas lâché l'affaire, non. J'ai pas lâché l'affaire. J'ai fait. On s'est mis avec. On a eu une petite pause avec mon frère, je pense. Et après, on s'est mis à des trucs plus simples, genre skimboard. J'ai fait pas mal de skimboard. Et oui, j'avoue, j'ai fait aussi du bodyboard. Mais pas très longtemps, mais jusqu'à faire du drop knee et du stand-up. Et j'étais pas loin de faire du surf, quoi, en fait.
En même temps, dans les années 80, le bodyboard, c'était.
C'était Ben Severson. Alors, nous, on avait la grosse chance. C'est pour ça que je te dis, on a eu des coups de bol dans notre vie. On a eu un surf shop là local. Ça s'appelait c'était Philippe Hervé Distribution. Et c'était un Manitou, le gars. C'était vraiment un mec qui était un entrepreneur, un dingue. Il a développé Fanatic. Il vendait des containers de windsurf quand le windsurf est arrivé. C'était un entrepreneur qu'on en voit plus maintenant, quoi. Vraiment, le mec était un visionnaire. Et ce mec monte un surf shop et il décide d'importer Clarkform. Ok. Clarkform, résine Sinmar et tissu XL. Donc on avait à La Rochelle l'importateur européen de tout ce qu'il fallait pour fabriquer des planches de surf. Okay. Il y avait Stark qui venait prendre des boards, il y avait PSM, il y avait des gars chez Poucas qui venaient prendre des pains. Ils venaient, ils se ravitaillaient, ils repartaient. On recevait 3-4 containers par an de pains.
Et pour le surf ou pour le windsurf?
Non, le surf, il y avait des pains de windsurf, c'est vrai, chez Clark, il y en a eu. Il y a même eu des pains de bodyboard. Je me suis fait des bodyboards en mousse, Clarkform. Mais c'était une veine, c'était incroyable. C'était mon seul employeur, en plus. J'ai jamais rien fait d'autre que fabriquer des planches de surf. Et le seul employeur que j'ai eu, c'était Philippe Hervé, enfin c'est Bérangère Hervé qui m'avait pris un ou deux étés pour vendre de la board dans leur surf shop. Mais sinon, j'ai jamais rien fait d'autre que fabriquer des planches de surf. Et c'est grâce à eux. Donc, j'ai fait du bodyboard. Ils avaient invité. Ils allaient régulièrement aux États-Unis, en Californie. Ils étaient très potes avec Rusty. Donc, ils ramenaient régulièrement des containers de vieilles boards. Donc, tu avais des Taylor Knox, tu avais des Pat O'Connell. Tu avais un tas de boards de pros qui revenaient. Ils avaient acheté une misère.
de la seconde main, des boards.
C'était fou d'avoir ça ici. Tout le monde se les arrachait, tout le monde voulait absolument les quand ils revenaient, ils attendaient que ça, ça partait direct, quoi. Des belles boards, et ça arrivait dans le conteneur avec un peu de résine, pas mal de pain, un peu de fibre et tout. C'était complètement hallucinant. Et moi, j'ai eu cette chance d'être au bon endroit au bon moment.
Et donc, du coup, tu bossais pour lui et...
J'ai bossé deux étés pour eux, tu vois, un truc comme ça. Mais quand ils avaient besoin d'un coup de main, il y a un conteneur qui arrive, on y en arrivait, je déchargeais tout le conteneur avec eux, on rangeait et tout. Puis j'ai commencé, mon père, pour nous occuper, il avait des fois des idées comme ça en été. Allez, on va acheter un pain et puis vous allez fabriquer une planche, débrouillez-vous, on y achetait de quoi faire. Et puis avec mon frère, on faisait tout n'importe quoi et puis on essayait. On a fait des belles bouses, on a fait des trucs incroyablement pourris, mais on s'est éclaté. Je crois que j'ai encore ma première planche.
À la maison,
dans un tout petit truc, dans le garage, au fond. la seule et même salle faisait office de tout. Chep, strat, ponçage, c'était incroyable. Zéro condition de travail. J'ai travaillé, je pense, 3-4 ans, sans masque, sans gants. Ah, je savais me laver les mains quand il fallait parce que ça me chauffait. Enfin, horrible, quoi. J'ai,
Mais t'étais ado, quoi, à ce moment-là.
J'étais ado, ouais, j'étais ado. J'avais 14 ans, 15 ans. Un truc comme
pour,
ça.
Pour ton frère et toi, ou c'était déjà pour des potes
Alors, c'était pour mon frère et moi. Après, des potes, évidemment, ont vu ça. Et à l'époque, c'était très compliqué. Alors, soit t'avais de la thune, tu pouvais t'acheter une Rusty. Soit t'avais pas de thune et il y avait tout pour en fabriquer une, mais t'avais pas envie de t'y mettre. Et puis il y avait le mec là, un mec qui s'appelle Renaud et tout. Il faut des planches. On veut lui demander et tout. Si tu veux, vu le level des gars, c'était pas non plus gravissime s'ils avaient pas la meilleure board du moment, et ça l'a fait, quoi. Et donc, du coup, on a commencé à en fabriquer petit à petit, tu vois, jusqu'à temps qu'on commence à en fabriquer un petit peu beaucoup trop. Et là, ça me faisait rire parce que. C'est pas Philippe qui m'a dit ça, enfin Philippe Hervé, mais je pense que c'était Dany qui m'a dit, tu sais Renaud, je sais, on te vend le matos, t'as travaillé pour nous, mais tu commences à faire trop de planches, et nous on commence à quasiment plus trop en vendre, quoi. Donc, et puis j'avais aussi la famille, les bouillés là, qui avaient le New Way aussi, qui me disaient la même chose, j'achetais un peu de polystyrène chez eux et d'époxy, ils me disaient, tu sais, depuis que tu commences à faire des planches, nous on sent que, voilà, on va faire un truc, c'est soit tu te déclares, soit on te dénonce. Grosso modo, c'était ça. J'avais 17 ans. J'étais au lycée. Je fais, ah, voilà, ça pue, quoi, leur truc. Bah, je me déclare. Et donc, c'est pour ça que je dis que depuis octobre 91, officiellement, donc depuis 33 ans, je fabrique des planches de surf. Et j'ai commencé un petit peu avant. Mmh. Voilà. Et j'ai. Ouais, donc, j'ai dû faire une trentaine de planches. J'étais encore au lycée. Donc, de dire que j'ai pas eu mon bac, hein, entre la micro-entreprise, la gestion compta, fabriquer des planches. Et puis bosser ton bac, mec, je l'ai pas eu, je l'ai raté d'un point. J'avais 24 points à rattraper, j'en ai rattrapé 23, je l'ai pas eu. J'ai refait une année, allez, bim. Bon, c'est pas grave.
Tu l'as refait quand même, t'as
quand même. Ouais, bien sûr, après j'ai fait fac de sciences, quelques mois. Bon, il s'est passé plein de trucs, mais bon, voilà. Et puis là,
t'as pas foncé tête baissée
Non, mais nos parents, ils étaient quand même très, très ouverts d'esprit et il n'y avait pas de problème. On a fait, c'est surtout mon père, ma mère était pharmacienne, donc elle a bossé. Et mon père, JP, lui, il s'était mis, il était visiteur médical, et il avait assez rapidement pris sa retraite, on va dire, très très anticipé. Je pense qu'à 50 balles, il ne travaillait plus, mon père. 45-50 ans, il ne travaillait plus. Il avait fait ce qu'il fallait, et il était content. Et donc, du coup, il s'occupait de nous. Et donc il nous avait vraiment mis à. Enfin, il avait soin de nous faire des occupations, genre bricolage et tout le truc. J'ai toujours été très bricolage. J'ai toujours. J'avais pas tellement joué, j'avais un établi, j'avais des clous, je fabriquais des petites chaises, des petits machins. J'ai toujours été très très manuel. Mmh. Donc, je me suis toujours amusé à faire ça. Et puis. À peu près à la même époque, vers 14, 15, 16 ans, un truc comme ça, on est parti faire un tour aux États-Unis. On est resté 3 semaines. Et mon père était fan des États-Unis. Et donc, on a fait de San Francisco à peut-être San Diego. On a fait toute la côte, machin, on s'est arrêté à plein de trucs et tout, c'était génial. On est revenu et mon père nous a dit putain, je kiffe trop le truc. Lui, il voulait s'acheter des 4x4, il voulait rouler avec des plaques américaines derrière le coffre, tu vois, des trucs de. De gadjo maintenant, mais bon, à l'époque c'était trop génial, quoi. Et il achète une parabole et il nous met du MTV à fond, les sports, on avait ESPN, donc on regardait du baseball, du football américain. Je parle de ça, je te dis en 91, quoi. Moi j'ai 16-17 ans et ça révolutionne dans ma tête. Je suis ESPN, on regardait les compètes de surf. MTV, on regardait tout plein de groupes, de trucs. Enfin, on était à l'école, tout le monde nous regardait comme des extraterrestres parce qu'on parlait pas la même langue. On avait une autre culture qui était en train d'émerger dans notre petite tête, et voilà. Et le surf, ça a été. Le surf et la musique, ça ont été deux trucs qui ont été extrêmement déterminants pour nous, et la culture américaine nous a toujours séduits, quoi. Ça a été toujours très très fort, très très fort pour nous. Donc du coup, on monte un petit peu une marque avec mon frère, donc Upper Water Love, qui est en fait une chanson d'un groupe qui est Fest No More, La chanson s'appelle Underwater Love, mais il y avait tellement trop de mauvais de mauvaises plaisanteries à faire une board qui s'appelle Underwater Love, genre ah ouais t'es board à cool man, tu vois, ça sert à ça, c'est une enclume machin. En plus c'était très lourd pour l'époque, on a fait on va mettre upper, ça sera beaucoup mieux. Et tu vois on est resté sur sur ça. Et mais voilà, pour dire que la musique, ça a été voilà, avec mon frère et moi, c'est très prégnant et tout style, mais on est beaucoup plus musique très métal. Ouais. Donc nous on a toujours été très Fletcher attitude, voilà, la famille Fletcher, c'est des gens qui m'ont toujours fasciné. Et parce que moi quand la Supernatural est sortie avec avec Fletcher, ça m'a choqué quoi. Ouais,
puis c'était pile le moment où
c'est pile le moment, voilà, c'est du death metal, c'est des mecs qui des gros punks, ils ont rien à foutre de tout, c'est du skate, c'est du rien à branler, et ça nous a, mon frère et moi, ça nous a choqué. On est toujours resté figé sur ce genre de musique et d'attitude. Ouais. Et j'avais par chance un pote, Guillaume Boutzel, qui avait la double nationalité et qui a fait genre un gros fuck à la vie, à ses parents et tout. Il a dit ah, je me casse, dès que j'ai mon bac je me casse et puis je vais vivre aux États-Unis. Il pouvait, il est parti vivre là-bas à Huntington. Et il venait de temps en temps en France. Et je faisais des planches de temps à autre, tu vois. Mais bon, lui, il surfait déjà avec des putains de boards, justement avec des Boson, enfin des boards où déjà même les Fletcher travaillaient avec eux et tout. Je trouvais ça complètement fou. Et un jour, il me dit, bah, t'as qu'à venir avec moi, viens aux États-Unis. Rester un petit moment à la maison et puis voilà, ça, je te présenterai des Shapers et tout. Et puis je dis, bon, j'y vais. Ouais, je devais avoir 20-21 ans et je suis parti là-bas. Donc il m'avait organisé tout un tour et on allait voir les Shapers. Et là j'ai rencontré.
Ah oui, t'avais carrément fait la.
Ouais, ils connaissaient plein de monde. Donc, alors moi j'étais censé voir Dennis Jarvis à la base de Spider Surfboard, que j'ai jamais pu rencontrer en fait. J'y allais que pour ça, que pour le voir. J'ai rencontré un peu son back shaper, Barry Van Den Mullen. Il travaillait pour Bechley. Elle était champion du monde sous ses boards et tout. C'était un truc de fou. Mais j'ai pas mal d'ateliers de strat aussi, Chuck Date Experience. On est allé voir Cordell Miller, on est allé voir. Enfin, il y avait. Enfin, j'ai passé un mois de folie et chaque fois que je rentrais, je notais noir sur blanc, j'avais des calepins et je faisais des plans d'atelier, je regardais comment la disposition de tout ça, je regardais comment les mecs travaillaient, c'était vraiment un travail, c'était professionnel plus qu'autre chose. Alors j'ai beaucoup surfé à Huntington, on a fait Trussell, on a fait plein de trucs. À l'époque c'était tranquille, cool, zen, c'était vraiment quelque chose de, enfin ça m'a vraiment apporté, ça m'a vraiment beaucoup apporté.
Pardon. C'est marrant ce que tu dis parce que du coup c'est, enfin il y a beaucoup de gens je pense qui auraient été juste fascinés par les planches. Qu'aurait même pas tilté sur ah tiens l'atelier l'organiser comme ça. Ah,
si, toi, j'avais déjà ça en tête.
Parce que tu sais que tu voulais l'importer entre guillemets, t'en inspirer, ou c'était juste vraiment que ça, le process t'intéressait et...
En fait, c'était très fermé en France. Donc j'aurais voulu faire ça, aller voir. À l'époque, il y avait Project, il y avait Bakum, il y avait PSM, Stark. J'aurais voulu les voir en disant les gars, voilà, je suis un petit shaper, j'ai envie de. On a fait, tu sais quoi, dégage, man, c'est. C'est notre business, on va pas te montrer les secrets de fabrication. Là-bas, les gars, ils étaient mais open quoi. Tu viens le Frenchie, je te montre ça, regarde comment on fait. Cordell, il m'a filé des outils que j'utilise encore. Enfin, j'ai rencontré des gars, Terry Sinaté. Enfin, j'ai rencontré mais une chier de gars, mais complètement dingue sur Huntington. C'était fou quoi. Et avec les portes grandes ouvertes. Quelque chose que j'aurais jamais trouvé ici. Jamais. Donc c'était plus simple pour moi d'aller me former à l'étranger à un meilleur level que rester ici et toquer aux portes et me faire jeter à chaque fois quoi. C'était sûr.
Et t'as bossé du coup ou c'était vraiment juste des visites?
Visites, un peu de boss. J'ai bossé un petit peu. Après Guillaume et sa femme et Olivia sont partis sur Maui. Donc je me suis retapé un voyage à Hawaï. Où là, j'étais avec mon frère, mon ex-femme aussi, Carole. On avait fait Kauai, où là, j'avais un petit peu bossé chez Dark Creek et Hawaiian Blade, à côté de l'aéroport. Kawaii, c'était hard. Hein. Là, c'était des couilles, les gars. C'était halo comme dans la vie. C'est des warriors, les gars. Ça rigole pas. Ça te tranche le cochon qu'ils ont chassé dans la journée. Ça te le dépece sur le parking. Ça enfile la peau quand ils l'ont dépecé. Ça enfile la peau sur le parking. Ça rigole. Enfin, c'est hardcore. Voilà. Donc après, on les a rejoints un petit coup après sur Maui, où là, j'ai rencontré d'autres shapers. C'était vraiment cool aussi. Et après j'ai fait Honolulu. Et
Et
c'est pareil.
là, tu bossais. Du coup, c'était
Non, c'était plus
voyage.
observation, mais c'était vraiment très très ouvert. J'ai bossouillé, mais je peux pas dire que j'ai bossé. Voilà. Je donnais la main un peu, je faisais deux, trois trucs, mais j'observais beaucoup. J'ai fait beaucoup d'observations. Moi, vraiment En 91, quand on a créé la boîte, le deuxième truc que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prendre des cours d'arts martiaux. Et je suis très respectueux de quelqu'un qui m'enseigne quelque chose, et je suis très observateur, et j'aime bien les techniques, et j'aime bien apprendre les techniques. Et ça m'a beaucoup servi, mon parcours d'artiste martial là-dedans, parce que c'est la façon dont on observe et la façon dont on appréhende une technique. Les deux sont, tu peux enfin, que ce soit du shape ou vraiment une technique martiale, tu peux vraiment utiliser les mêmes outils pour l'ancrer dans ta tête et puis l'appréhender. Donc j'ai fait ma petite expérience comme ça, un peu à l'étranger. Quand je revenais, il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a à l'heure actuelle. Donc ce qui se passait à l'étranger, quand tu revenais, mec, tu avais 3 ans d'avance sur la France. Mais facile. En tout, en déco, en termes de shape, en technique de glaçage ou autre, tu avais 3 ans d'avance. Donc si quelqu'un faisait pas l'effort de se déplacer et de voyager, il stagnait. Maintenant, ça n'a plus rien à voir.
Oui, c'est différent.
C'est vraiment différent, quoi. C'est plus ouvert.
C'est sûr.
Donc voilà, très tôt, la boîte très tôt et.
Donc là, tu faisais plus que ça, quoi.
Que ça.
C'était ton.
Que ça, en fait. Je fabriquais mes planches dans l'atelier, et mon père, il voyait bien que ça prenait, que j'étais passionné et tout. J'avais organisé une collecte de repas sur La Rochelle, donc j'avais ma petite caisse, et j'allais chercher, il y avait 3-4 surshops, je venais chercher les boards, où il m'appelait, il disait rien. Et puis je faisais des repas, là c'était la découverte de plein de shapes. Je reprenais, je scannais, enfin je dis scanner, je reprenais toutes les dimensions de la board, je faisais les templates, j'essayais de les refaire, machin. J'ai beaucoup appris en faisant de la répa. Et puis il y avait un shop, je me souviens plus du nom, mais il y avait Arwan qui tenait ce magasin-là, qui avait commandé des boards chez 3DEC. Et il me dit, je suis venu au 3DEC, il était à Plomeur, enfin fond de la Bretagne. Il me dit, bah, si tu veux, viens avec moi, on va le rencontrer. Et puis il a un bel atelier et tout, si tu veux, comme ça tu pourras discuter avec lui. Toi, j'étais jeune, hein, j'avais 17 ans. Je dis, bah, allez, vas-y, on y va, trop bien. Et puis, on arrive là-bas. Et puis, ça colle avec 3D, c'est un caractériel aussi, mais il est très sympathique quand même comme gars. C'est un bosseur, il a eu plusieurs vies, il a fait un tas de trucs, ce gars. Et puis, on s'entend bien et tout. Et puis, il montre. Et on fait le factory tour. Il y a des Néo-Zélandais, des Américains qui sont là, ils bossent avec lui et tout. Je trouve ça trop cool. Je dis, c'est fou, son truc. C'est bien organisé, shipping bay, sanding room, un petit glass shop qui est bien et tout. Il a sa clientèle, son petit shop, et je me dis juste, hey mec, moi j'ai envie de faire pareil, quoi. Donc je reviens, j'en parle à mon père. Je dis, putain, je pense qu'il faut passer le truc au-dessus et tout. Qu'est-ce que t'en penses que tu. Puis il me dit, bon bah allez. On avait mes parents, ils ont une vieille longe, une vieille longère de Charentaise, tu vois, c'est une vieille ferme, un vieux corps de ferme, et une bergerie derrière, désaffectée. On dit, bah là-dedans, si tu veux, on fait un atelier. J'avais 60 mètres carrés. Déjà, c'était pas mal. J'avais 18-19 ans, 60 mètres
pour
carrés,
démarrer,
pour démarrer, c'est plutôt bien, quoi. Puis on retape tout avec mon père, on fait les cloisons, tout, on met les systèmes d'extraction, machin, et puis.
Ah, dès le début, t'as
ouais, ouais.
équipé sérieusement.
Ouais, bon, et mon père, bah, j'étais visiteur médical, ma mère est pharmacienne. Donc c'est pas qu'ils sont à fond sur tout ce qui est protection, mais vous voulez faire les trucs pas trop mal,
ils
toi.
Sont quand même sensibles.
Ils sont quand même sensibles. Donc on l'a fait. Et là, j'ai mon premier petit atelier, 60 mètres carrés, et. Et ça marche, quoi, toi. mes échanges avec les shapers, je m'intéresse à plein de trucs, je commence déjà la résine UV, on est en...
Tes échanges avec les shapers, c'est-à-dire
bah, j'envoie des... J'écris, je reçois des... j'en ai visité en allant en Californie et à Hawaï, donc on a une correspondance. À l'époque, on écrit des lettres qu'on envoie, tu vois, avec un timbre. Et ils me répondent des fois, ils font des trucs comme ça, tu vois. Puis je me dis, putain, ce serait vraiment cool qu'un jour ils viennent et tout. J'en ai un qui passe, un Hawaïen. Je monte mon petit atelier et tout, et puis ça le fait marrer, mais bon, il trouve qu'on se débrouille pas trop mal, on fait des trucs qui sont cool. Et puis, il y a une année, voilà, on est en, je sais pas, 98. Je fais 300 planches dans l'année. Je suis tout seul. Hein. Je me lève à 5h, mec. Je me couche à 22h.
C'est énorme, ouais, quand même.
Je fais 300 planches. Et je montre à mes parents, tu vois, je leur montre sur le papier.
Chépé,
poncé, glacé. Glaçonne, hein. Que des glaçonnes. Il n'y a pas FCS, ça n'existe pas.
Et tu les vendais
Je les vendais, alors.
C'était des commandes ou
ouais, c'était des commandes. Ouais. Hein. Alors, mon frère, il avait fait les Beaux-Arts à Bordeaux. Donc, on allait souvent le chercher à Bordeaux. Et assez rapidement, mon frère avait fait un site internet. Alors autant te dire que déjà le site internet ça existait très très peu. Mm-hmm. Alors dans le monde du surf, autant te dire que ça n'existait pas. On avait un espèce de petit un petit boîtier où ça se connectait avec le téléphone, ça faisait un bruit et puis c'est le truc qui apparaissait, c'était pas le Minitel, mais c'était à peine mieux que le Minitel, mais mon frère était déjà à fond là-dedans. Et on avait été remarqué et tout et on s'était on avait eu la chance de faire une espèce de on a eu un comment on appelle ça une espèce de, d'échange avec une école de commerce et on avait eu une sorte de stagiaire qui s'appelle Fred Lavaux qui avait comme mission de nous trouver des revendeurs. Okay. Il était sur Bordeaux et
cool
trop bien et le mec il enquille les trucs, il va au culot, le mec il savait très bien parler, il vendait très bien les choses et il nous fait rentrer chez Decathlon. Ouais, on référençait chez Decathlon. Ah oh, putain. Et là, les commandes commencent à arriver, toi. Et il dit, mais c'est pas fini, les gars. Je suis en pour parler avec GoSport. Bam, il nous fait rentrer chez GoSport. Et après, chez Sport 2000. Donc là, je commence à avoir trois grosses boîtes qui nous commandaient. Alors, c'était anecdotique, hein, les planches de surf à cette époque-là. Hein. Donc, ils avaient des rayons. On en envoyait un petit peu par-ci, par-là, tu vois. C'était bien sûr en bord de mer. Et ils en prenaient 3-4, mais ça suffisait.
Ouais, ouais.
Donc on a fait.
Et là, c'était des planches classiques.
Planches classiques. PU, donc déjà à l'époque, on voulait pas mélanger les genres. Donc on avait en plus, ce qui était. Enfin, c'est là où on est. On avait déjà créé 3 autres marques. On voulait pas que. Voilà, on avait Upper Water Love et les autres marques. On voulait pas que ça nous porte préjudice ou autre. Parce qu'en plus, il y avait une grosse connerie que Stark avait fait. Il avait commencé à travailler avec Hawaii Surf. Ils avaient fait une putain de série, je ne sais plus trop où, en Asie. Et ça s'était su. Et il avait été démonté par la clientèle. Donc, les planches venant d'Asie, tu ne pouvais pas les faire là-bas. Tu fabriquais tout en France. Bon, on fabriquait en France les planches pour Decat et le reste. Mais on ne voulait pas qu'il y ait de millimélo entre
WL. Spécifique pour
et toi. Donc, on avait fait des marques. Déjà, on avait développé des marques avec mon frère. On avait, toi, voilà. Ça nous plaisait. Il kiffait faire ce genre de truc. Et donc il y a une année on fait 300 bardos. Je suis vraiment tout seul et je fais tout. Les décos, mon frère était très doué aussi. Il faisait des petites décos et tout, mais à l'époque il préférait juste des sprays, des trucs simples. Donc voilà. Donc ouais, je chépais tout à la main et je faisais tout seul.
Mais du coup t'étais quand même. enfin t'avais beaucoup observé, mais t'étais grandement autodidacte.
Quoi. Ah ouais, complètement. Il n'y avait pas d'autre moyen à l'époque. Pas d'autre moyen. Ma bible c'était Surfer Magazine ou Surfing Magazine. Pas Surfer Journal, hein, Surfer ou Surfing, et c'était le Design Forum. Donc à la fin de ce magazine, tu avais une page ou deux, des fois trois. Si tu avais l'annual, tu avais 3, 4, 5, et tu avais chacun venait poster, enfin les grands shapers venaient poster des boards dedans et ils expliquaient dimension, largeur, épaisseur, truc. La board était prise sous 2-3 photos, trop bien, c'était hyper bien expliqué. Et mec, j'en ai. Je prenais les dimensions, ouais. Je faisais mes petits trucs pour essayer de la faire en grand, de redessiner les templates. J'ai pris des caisses entières de développement, de micro, de pins de board pour en faire des vrais à la fin. Et ça m'a vraiment c'était ma bible, ce genre de truc, tu vois. C'était vraiment très très intéressant pour moi. Mais c'était le seul, c'était le seul moyen pour moi d'avoir de l'info. Il n'y avait pas d'autre solution. Ou alors il fallait que je me barre, que je retourne aux États-Unis. C'est un truc que j'ai fait. J'ai fait des va-et-vient quand même.
Et ça, ça t'a formé sur le shape, mais le glas et le ponçage, du coup, c'était vraiment on y va.
Mais
t'as réussi.
J'ai réussi. J'ai fait de la merde, mais j'ai réussi. J'ai fait des trucs. Mais ouais, voilà, c'était très 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 formateur. C'était j'ai adoré faire ça. C'était des super années. C'est même si c'est tout seul, même si c'est avec beaucoup de temps passé, voilà quoi.
Et du coup, tu vendais sur La Rochelle
Un peu, ouais. En clientèle directe.
En clientèle, ouais, voilà.
Ouais, direct. Bah, des fois, on essayait d'en mettre dans les shops, et les shops, des fois, nous en prenaient quelques-uns. Hein. On arrivait à faire des petites séries. Ouais. Donc, on avait un catalogue, on avait des. Ça nous a énormément.
C'était bien travaillé, structuré.
Travailler pour ces marques-là, ça nous a énormément. Il fallait faire un catalogue avec un commentaire explicatif, les dimensions dans lesquelles tu pouvais les avoir. Voilà, les certifications, tout, prix pro, prix public. Bon, une fois que je suis arrivé avec ce dossier en disant, tu sais, pap, regarde, on arrive à faire 300 boards, je pense qu'il y a un potentiel, on peut en faire beaucoup plus. Il y a quelques majors et quelques gros noms, mais sinon, dans l'ensemble, la France, c'est quand même vachement ouvert. Moi, je pense qu'il y a un potentiel. Moi, je pense qu'on pourrait voir plus grand. Et nos parents nous ont suivis. Et on est parti à ce moment-là sur le projet dans lequel je t'accueille aujourd'hui, c'est celui d'Angoulins.
Rapidement, quoi, en fait.
Bah, en 2001, ça ouvre. On met 3 ans à l'élaborer. Avec des archis, tout, on met les plans au point, on négocie le terrain, machin, et ça met 1 an ou 2 à sortir de terre. L'avantage, ils ont été très très cool avec nous, la CDA, c'est qu'ils nous ont remis les clés, et encore pas tout de suite, ils nous remettaient les clés quand le bâtiment était terminé. Donc il pouvait se passer n'importe quoi avec les artisans. De retard, de machin, hop, nous on payait rien. Ouais. On s'est mis à payer, mais encore l'administration était tellement longue.
Tu peux expliquer comment ça marche ça? Parce que la CDA c'est la caisse.
Non, la CDA c'est la comité d'agglomération.
D'accord, comité
d'agglomération. Donc c'est à la mairie si tu veux.
Ils vont soutenir.
Ouais, ils font plus ça maintenant. Ben, parce qu'il y a eu des problèmes. Donc tu as un appel d'offres public.
Ouais, ouais.
Où tu passes un marché et tout, et après, ben voilà, les entreprises y répondent.
Mais ils finançaient le truc.
Ils finançaient le truc jusqu'à réception des travaux, clé en main. Ils te donnent les clés et c'était un projet clé en main. C'était incroyable.
Incroyable.
Incroyable. C'est un truc qui n'existe plus, mais nous on a eu cette chance-là. Encore une chance.
Okay.
Et ouais, donc là, on monte le dossier, on fait le truc avec la CDA, donc là. On était déjà à fond sur comment avoir des subventions, machin. Donc, on passe en commission à au conseil général. C'est Raffarin qui nous reçoit. On passe en commission, on explique notre projet. On fait tout ce qu'il faut. Bravo, vous l'avez. Avec plaisir, on vous soutient. Et ça continue encore et encore. On a toujours ce genre de relationnel avec la bureaucratie, on va dire.
En tout cas, il y avait vraiment une démarche entrepreneuriale.
Ah ouais, très forte.
Dès le départ.
Dès le départ. Et voilà, le bâtiment il sort de terre en 2001. Et en 2001, on est dans les locaux.
Mais du
donc
coup,
on est trois.
T'avais pas de main d'œuvre
non,
vraiment encore.
J'étais tout seul.
T'avais les locaux, mais il n'y avait locaux, pas encore de gars à mettre dedans.
Trois. Mon frère était à l'informatique. Mon ex-femme, il était au shop. Et moi, je produisais. Et il fallait que je produise. Hein.
Ouais, du coup,
et la gars, il fallait que je produise, mais massivement, quoi. Ouais. C'était très compliqué. Et là, j'ai vraiment. Je me suis usé physiquement. Mais ça l'a fait, hein, je l'ai fait. Et après, j'ai commencé à avoir un premier employé, trop bien, qui est encore parmi nous, mais qui est encore parmi nous, c'est Antoine Thénon, qui est backshaper, qui est glaceur, qui pose très très bien.
Plus, ça fait 20 ans qu'il est.
Il y a eu un break. On a eu un break, mais il est revenu. J'ai Bruno Mougard, qui est chef d'atelier, quand on a acheté la première commande numérique en 2003. S'en occupait déjà, il était en stage pas non loin dans une école de composite, donc il a j'ai un crew de gars qui sont là depuis quasiment le début, quoi. Ouais. Ben Jean qui s'occupe des ventes, qui est là depuis je connais depuis qu'on a ouvert, quoi. Mmh. Et qui bosse avec nous.
Oui, donc du coup, attends, vous avez ouvert en 2001 ici et en 2001. 2003 vous aviez la machine qui arrive.
Ouais, la première CNC c'est en 2003. Ouais.
C'est
une histoire de fou aussi, c'est pareil. Donc je reviens des États-Unis encore, et puis j'ai vu ce truc et je me suis dit, mais il nous faut ça, quoi. faut ça, ça mange pas, ça dort pas, c'est fiable. Donc je contacte le gars, Luciano Leao, là, au Brésil, et il me dit, ouais, c'est possible, ouais, je vous vends une machine, ça le fait, faut 6 mois pour la faire, pas de problème. Mm. Si, je viens en Europe, dans pas longtemps, j'en installe une, si vous voulez la voir, ça, vous pouvez juger. Donc il nous appelle et tout, ouais, je suis en Europe, là, je suis en train de la monter, alors je sais plus où, chez qui il a monté. C'est pas Poucas, mais c'était quelqu'un d'autre. Donc Poucas en avait une. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'avaient. Enfin, si, il y en avait, mais Rusty l'avait. Merrick l'avait. Je crois. Sherpa, il l'avait. Lost l'avait. Et c'était vraiment la révolution.
Ça restait confidentiel.
Ça coûtait. Encore. Ouais, ça
pas
coûtait.
Confidentiel, mais c'était pas encore développé. Il n'y en avait pas des milliers.
Non. Ça coûtait 50 000 francs à l'époque, je crois. 50-60 000 francs. Pas cher pour si tu convertis à l'heure actuelle, mais 10, 12, tu vois. Mais bon, c'était en francs. Maintenant, c'est en euros. Et pour le même tarif. Peu importe. Et donc, on est, avec mon frère, on est vraiment hyper, hyper intéressés. Et donc, on se dit, bah ouais, on va descendre en Espagne. Puis, on va aller voir, on va voir comment ça marche. On arrive en Espagne. Donc, Luciano, il nous accueille. Puis, sur le pas de la porte, il nous dit, bah les gars, bah moi, je vous montre la machine. Je vous montre tout. Parce que mon frère, en fait, la petite histoire, c'est que mon frère, il me dit, mais c'est quoi, j'ai vu, on pouvait en faire nous-mêmes. Et on se l'a fait. On regarde comment elle fonctionne, sa machine. Et après, on achète les châssis en alu et tout. Il y a plein de petits gars qui en font. Et nous, on se l'a fait nous-mêmes. Et on ne dépense pas 50 000 francs pour faire ce truc-là. Bah, si, on va dépenser 50 000 balles pour faire ça. Parce que le mec, il nous dit, bah là, bah, vous pouvez pas rentrer dans le dans l'atelier.
Il y a quelqu'un.
Vous pouvez pas rentrer dans l'atelier. Vous devez me certifier que vous allez me l'acheter.
Ah ouais.
Ou alors vous repartez.
Il a anticipé le truc.
Ah non, il nous a bien piégé. Putain. J'appelle mes parents. Je leur dis, bon voilà, le mec, on a fait toute la route pour rien. Sauf si on a, donne un accord de principe, on achète la machine. Donc nous, on est à fond. Voilà. Enfin, il faut nous faire confiance, il nous la faut. Mais voilà, on peut pas s'engager sans que vous nous disiez oui ou non parce qu'on n'a pas l'apport. Il faut que vous ne soyez partant. Et mes parents ils nous disent bon allez go, vas-y, faites-le, ça va le faire. Et donc on signe un papier et ils nous laissent rentrer. Bon alors après c'était à l'espagnol, les fiches, les prises électriques, le mec il a dénudé deux câbles, il les a branchés comme ça, il n'y avait même pas de prise, le courant n'était pas stable, la machine a fonctionné pas, c'était une horreur et on s'est juste dit on fait confiance aux gars parce que plein de gars longs déjà, plein de grosses pointures, Akawala et tout, mais bon, c'est pas aujourd'hui qu'on va avoir une belle démo, mais bon, du coup on passe commande et donc en 2003 on la reçoit, il vient, il la monte. Il nous dit, vous savez les gars, vous avez fait le meilleur investissement de votre vie, parce que cette machine, elle vient pas tout seul, elle vient avec les clients. Et là, je peux déjà vous dire, donc il me prend à part, il me dit, tu vois là, dans ce petit calepin, il y a tous les gens avec qui je travaille, et qui sont pas en Europe. Et tu as juste à me dire qui tu veux, on les appelle tout de suite, et je suis sûr que tu as la licence. Ouais. Voilà, ça s'est passé comme ça.
Ouais, parce que tu avais la même technologie que
eux. Même technologie que
ils avaient confiance.
Ouais. Et il y avait des bis-bis avec Poucas. Il y en a qui voulaient plus travailler avec Poucas. Parce que, je sais pas, c'est pas été bien payé, pas bien reçu, j'en sais rien. Enfin, il y a des caractériels aussi, donc peu importe. Et donc, du coup, ben je dis, je sais pas, t'as un country ? Ok, on appelle Glenn Punk et tout, machin et tout. Ouais, en Europe et tout. Je suis en train d'installer la machine. Ils sont vraiment bien, ces petits gars, vraiment bien et tout. Moi, je pense que vous avez vraiment une carte à jouer et tout. Ouais, trop bien, écoute, bah ouais, tu m'envoies leur mail et tout, et puis on va les recontacter et tout. Ok. Bah, je sais pas, je dis Marcio Zouvi Sharpay, mais en fait je le connaissais d'avant parce qu'on avait fait des Glisse Expo avant. C'était les seuls salons qui existent en France. On avait fait des Glisse Expo, il était venu sur le salon, on avait discuté, je le connaissais déjà un peu. Mais je dis Marcio Zouvi, bah, il dit bah oui, il est brésilien, je le connais très très bien. Marcio, ouais, pas de problème, hop, on appelle Marcio et tout. Et Marcio dit ouais, trop bien, ouais, bien sûr, je le connais, ouais, on va travailler ensemble. Et comme ça, on a eu les deux marques. Et donc, du coup, après, bah, on avait deux licences. Et là, c'est pareil. Donc là,
tu peux expliquer comment ça, quel est le principe en gros de la licence ?
Bah, la licence, tu reçois des, bah, tu prends des commandes, donc tu fais la promotion, tu reçois des kits médias, des boîtes, tu fais la promo, tu reçois des commandes. Puis après, alors, c'est l'époque qui voulait ça. Hein. T'avais un logiciel de design, mais par contre, le design était verrouillé. C'est-à-dire que tu l'enregistrais sur une disquette et après tu n'avais plus de possibilité de le voir apparaître sur ton écran. T'as une espèce de tour, c'était hyper rétro ce truc-là. T'avais une espèce de tour, tu mettais le floppy disk. Donc c'est une petite disquette que tu mets dans le truc qui avait une durée de vie de 4 utilisations et après elle était morte. C'était l'enfer ce truc. C'est floppy disk. La première chose, c'était une floppy disk. Tu mettais donc floppy disk dedans et ça lisait un programme. Et la machine, tu disais, ouais, c'est good, vas-y. Alors tu mettais le pain comme tu pouvais. Et après, tu l'as lancé. L'outil de découpe descendait, faisait semblant, enfin, découper un truc. Et toi, l'objectif, c'était de monter le pain de façon complètement aléatoire, jusqu'à temps que la machine vienne toucher le pain à l'avant et à l'arrière et au milieu pour qu'elle défonce le pain et puis qu'elle fasse son chèpe. Et puis une fois que c'était stabilisé comme ça par magie dans les airs, hein, où tu avais quand même deux clamps qui venaient tout serrer, tu lançais tout le programme et à découper dessus et à découper le dessous. Et c'était rudimentaire, mais d'une force. Par contre, c'était quand même assez fidèle, ça fonctionnait pas trop mal, mais tu avais tout un savoir-faire, des vieilles techniques de vieux sioux pour faire tenir le truc, parce que sinon ça marchait pas. Enfin, c'était compliqué, quoi. Voilà. Mais c'était notre première machine. Et franchement. C'était génial parce que les shapers sont venus. Donc, on a eu. Glenn est venu. Le premier shaper qu'on a su vraiment, vraiment, c'était. C'était Doc Loche de Surf Prescription Huntington, que j'avais rencontré aussi, qu'on a fait venir. Qui lui. Commençait. C'était balbutiement pour lui aussi avec la machine. On avait presque reçu la machine avant que lui ait la sienne. Donc, du coup, le mec, il était. Il savait presque pas comment l'utiliser. Il était pas terrible en programme encore. Donc, il était obligé de venir avec son back shaper. Qui travaillait pour lui au Brésil et que j'ai mangé son nom, merde. Enfin, un très bon gars, très très sympa. Donc, ils étaient venus à deux. Déjà, je recevais deux shapers qui logeaient chez moi. Mais j'ai toujours eu les shapers qui logeaient chez moi. Tous ceux qui viennent à la maison. Et ces gars-là, c'était la première série de planches qu'on faisait internationale. Donc, on avait fait venir. À l'époque, il y avait Canabitch qui lui prenait pas mal de planches. Donc, on avait travaillé avec eux. On avait une bonne relation et tout. Et voilà, c'était les prémices un peu du Shaper's Club, quoi. C'est les premiers shapers qu'on invitait. Et donc après, la machine, comme je te le dis, on a eu Sharpie. Donc après, la licence, pour revenir à ce que tu demandais, la licence, c'est une quantité de planches. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est qu'après, tu as une quantité de planches minimale à faire par an. Donc des royalties à verser chaque année. Ouais. Et puis il te demande une bonification de X% par an jusqu'à un moment où tu dis les gars, non, je peux pas faire plus de 300 planches que pour Sharpie. Ça a pas de sens, le marché est pas là, on communique tout ce qu'on peut, en plus mec, tu viens plus shaper à l'atelier, il lance un peu la machine, puis après c'est on est tranquille, hein, puis on reçoit le chèque à la fin de l'année et puis il se débrouille pour les vendre. Non, ça marche pas comme ça, moi je préfère quand les gens ils viennent. Parce qu'ils nous forment. Ça m'est arrivé de partir en Californie ou à Hawaï pour me faire former par Marcio ou par Glenn sur les nouveaux modèles, les nouveaux trucs. Mais sinon,
pour vraiment comprendre les shapes.
Comprendre les shapes, sinon c'est.
Parce que du coup, tu touchais pas aux fichiers 3D.
Je pouvais pas les modifier.
Ouais, c'est ça. Interdiction. Ça restait leur câble.
Ils étaient verrouillés, je les voyais jamais apparaître. Aucune possibilité. Okay. Donc si je voulais, quand j'avais des customs. Il fallait que d'abord j'envoie tout ce que je voulais en termes de modèle, dimension et tout le truc. J'expliquais ce que le surfeur voulait.
Et eux, ils te renvoyaient un truc.
Alors eux, des fois, me renvoyaient un truc. La plupart du temps, non. Donc je passais mon temps à essayer de les appeler pour leur dire « Gars, je t'ai envoyé un mail, s'il te plaît, tu peux répondre parce que j'attends que tu m'envoies le putain de fichier. » Donc je recevais mes petits floppy disques par la poste des fois, tu vois.
Ouais.
Et je les mettais dans la petite tour. Après, on est passé à des disquettes. Je me souviens, on est passé à des disquettes. Et après, Shape 3D est enfin arrivé. Ils ont fait une passerelle. Non, on était sur DS. Attends. On designait sur. C'était quoi le logiciel ? Bon, c'était un autre logiciel qui était celui du fabricant. J'ai mangé le nom, je me souviens plus. Peu importe. Mais enfin voilà, la machine enfin acceptée. Enfin, Thomas avait pas demandé l'avis, je pense à Luciano, il a dit je vais faire une passerelle. Donc du coup, il a fait une passerelle et donc du coup, on a commencé à travailler chez 3D. Et là, c'était quand même un autre monde. C'est vraiment mieux. Et entre-temps, on a une autre machine, une APS, une KMS 3000, une machine française, plus pour le polystyrène. Parce qu'on commençait à avoir de la demande en polystyrène, ils vont travailler avec un shaper Rochelet Black Local qui lui fait beaucoup de planches en polystyrène. On s'est dit, oh, on achète une machine à deux, et puis comme ça, toi tu pourras découper tes pains, et puis moi je pourrais commencer à faire du polystyrène. Parce que on avait un petit peu de mal avec les billes et tout à découper proprement du polystyrène avec la DSD. Et on a eu du mal avec cette machine, du coup on l'a revendue. Et. J'ai eu une proposition de rachat sur la DSD et j'ai dit oui. Parce que j'avais en vision un nouveau truc qui venait de sortir, c'est APS 3000. Et pour moi, c'est révolutionnaire. C'était un disque. La découpe était tellement parfaite. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que la DSD, elle faisait des square rails. Donc le rail était carré. Il n'y avait pas de rail formé. Okay. Et pour les shapers, c'était vraiment la dernière petite partie qui rendait la planche. Enfin, c'est pour ça que j'allais me former la plupart du temps. Je partais là-bas pour être formé parce que le rail était carré et que le rail devait être parfait. Et pour chaque modèle, ça change tout. Donc, c'était hyper important que le rail soit. Donc, j'allais là-bas pour me faire former sur les rails. Tandis que là, la PS 3000, eh ben, c'était une machine qui faisait le rail dans sa globalité. Par contre, toutes nos licences, elles étaient signées. Donc, on avait. Quand tu signais avec Tan Country, tu avais une certaine marque de pain à prendre, une certaine résine à prendre et une certaine fibre de verre à prendre.
Ah oui, c'est.
C'était drastique. C'était une recette et tu ne sors pas de la recette, mec. Si tu sors de la recette, on tombe dessus. S'il y a un problème de qualité, c'est ta faute. Tu rembourses à bord, tu fais. Donc tu restes sur la recette qu'on te donne. Et donc là, je me retrouve avec une planche. Je me retrouve avec l'envie de virer la DSD et d'acheter une APS 3000. Mais là, comment faire comprendre que c'est le futur et que des mecs comme Tan Country et Sharpaille, ils travaillent avec une vieille rouille. Il faut qu'ils changent, il faut qu'ils s'adaptent, les gars. Alors, j'y vais à tâtons, tu vois, et j'explique et tout. On va changer, on va acheter ça et tout. Mais est-ce qu'on peut continuer à travailler ensemble? Mais je vous promets, les fichiers, il y a une passerelle, ils sont identiques, mais tout. Mais c'est que le rail et tout. J'avais peur, hein. Et je fais un meeting avec Greg Shugihara, le fondateur de Tan Country, et Glenn, qui était déjà un peu partie prenante et un peu genre partenaire financier. Et les mecs prennent le truc plutôt cool. Ils me disent, ah, c'est une bonne idée et tout, ouais, c'est une bonne machine, je pense, et tout. Ok, tu peux. Je vais continuer à fabriquer nos planches avec ça. Et j'ai fait en fait un peu l'entremetteur. Et en fait, j'ai tellement mis des pouces en haut en disant que c'est tellement bien. Bah, qu'ils ont vendu leur DSD eux aussi et ils ont acheté des APS 3000. Et après, on était tous raccord et on fonctionnait tous ensemble avec les mêmes machines. Et c'était trop bien. Donc, ça fait plaisir d'avoir eu un tout petit peu d'influence sur. Mais ils sont ouverts d'esprit quand même, mine de rien. Mais j'ai eu peur de perdre un petit peu.
C'est cool, parce que Tarn Country, c'est une marque historique.
Ah ouais, c'est une marque historique. On a travaillé 10 ans avec Tarn Country, on a travaillé 10 ans pour Sharpaille. Et avec des va-et-vient, et ils venaient, ils repartaient, ils venaient nous rendre visite. On a eu des. Bon, voilà, mais c'était un petit peu le début du Shapers Club. Le Shapers Club, on l'a vraiment créé en 2010. On commençait à avoir beaucoup de shapers qui venaient nous voir. Et en 2010, on a décidé de poser un nom. Mm-hmm. On a fait une réunion, on était avec Ben. Je crois qu'il y avait. Tristan, il faisait plus partie de l'équipe. Il devait y avoir Paul Lefebvre, Son of Cobra, qui était encore avec nous. Et. On avait fait un meeting et puis on avait dit bon, comment est-ce qu'on pourrait faire pour fédérer tout ça et tout. Puis nous, on était sortis au fur et à mesure du brainstorming. Un Shaper, il y en a beaucoup, c'est comme un club. Bah, Shaper's Club, non, c'est nul, Shaper's Club, on va trouver autre chose. Puis au bout d'un moment, bah, Shaper's Club, c'est pas si mal en fait, on va garder. Et puis du coup, on a travaillé sur le logo, on a fait un tas de trucs et puis et c'est sorti comme ça.
Et du coup, le concept du Shaper's Club, c'est que tu invites des Shapers en résidence.
Ouais, c'est ça.
Ils viennent chéper.
Ils viennent chéper, alors voilà. En fait, ils viennent jamais. Ce qui les change, le shaper a toujours été le globetrotter. Le shaper, normalement, il suit un swell, il chépouille par-ci par-là, il continue à surfer les vagues, il est content, et c'est toujours. Voilà, le globetrotter, c'est sa raison d'être, on va dire. Ça faisait longtemps que ça s'était pas tellement fait. Ça s'était fait pendant un temps, mais là, les années 2000, ça se faisait quand même vachement moins. Et nous, on mettait un peu au goût du jour ce genre de choses. Et Pouka invité quand même déjà des patronsones. Je pense, bon, Méric, il y venait pas, mais il y avait du Arakawa qui se baladait. Il y avait quand même des pointures qui venaient un peu en Europe, tu vois. Mais bon, nous, notre vision a été assez différente. Les shapers, ils viennent, ils ont une commande qui est passée. Ils n'ont pas à se préoccuper de la commercialisation. Ils seront payés quand ils partiront. Ils n'ont pas besoin de prévoir l'approvisionnement des pains. Habituellement, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est genre, ils appellent une factory, ils disent bon, bah moi j'arrive. Dans la bourgade, j'ai 4-5 personnes qui veulent des boards. Est-ce que vous avez ce pain-là ? Est-ce que vous pouvez me louer le shipping bay ? Est-ce que vous avez des gars pour glacer ? Oui,
ouais, faut qu'ils
il arrive, ils organisent tout. C'est juste un. Ils louent une salle. Nous, c'est pas ça. Nous, t'arrives, t'es un prince. Dès lors que tu poses le pied, tu payes pas, on paye pas les billets d'avion. Dès lors que tu poses le pied sur le territoire français, on prend tout en charge. Le train, l'avion, tout ce que tu veux pour venir jusqu'à La Rochelle, la bagnole, on prend tout en charge. Ta bouffe est prise en charge, tout est pris en charge. Tu chèpes, donc découpe machine, end chèpe, peu importe, c'est old school, new school, on
ça
a tout ce qu'il faut pour
ouais, ça dépend des shippers.
Ça dépend des shippers. Et nous, on te garantit 50. 80, 100 planches, il faut que tu nous les fasses. Voilà, c'est ça le deal. Mais voilà, c'est, le Shapers Club, c'est ça. Okay. Donc on a de l'hawaïen, du japonais, de l'australien évidemment, de l'européen. Voilà, on a tout et tout type de. Du moment que, si tu veux, là, il est suffisamment populaire pour susciter l'intérêt de la clientèle européenne, il est bienvenu.
Ouais.
Pas de...
Et dès le début, vous aviez beaucoup de.
Ouais, on savait pas comment faire pour dire oui à tout le monde.
Ah oui,
ouais. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde n'est pas connu.
Oui.
Et qu'on pouvait pas se permettre de prendre. De garantir 50 planches à un gars et puis pas les vendre. Même s'il faisait. Même ici, il y en a qui font des boards incroyables. Les gens, enfin, la clientèle surf, des fois, il y en a qui viennent à l'atelier avec. Je veux ça comme déco. J'ai dit, oui, d'accord, mais on fait quoi comme planche ? Mais est-ce que tu peux faire la déco ? C'est d'abord la déco et après on verra ce qu'on prend comme planche. Il y a des gens qui viennent avec les ailerons. On m'a offert ça comme aileron. Sur quelle planche ça va ? Non, mais ça, tu poses tes ailerons, on va faire la planche qu'il faut et après tu auras les ailerons qu'il te faut avec. On ne prend pas les choses dans le bon sens. Donc les shapers, malheureusement, même s'ils font un travail déception, le client, il peut. Très bien passer à côté et dire non, mais moi ça m'intéresse pas parce que je connais pas, je sais pas ouais. Ce que ça vaut, et puis non, moi je préfère un tel ou un tel. Donc il y en a qui sont récurrents, qui viennent chaque année, il y en a qui viennent qu'une fois tous les deux ans parce que le temps que ça s'écoule, les gens qui nous redemandent de leur marque, s'ils s'écoulent un an ou deux, mais voilà, dans l'ensemble, c'est ce genre de fréquence là. Alors on a eu, je crois que la pire année, je crois que c'était 12, donc j'en avais un par mois. Il reste une semaine à deux à la maison. Donc une semaine je suis tranquille, une semaine j'ai du monde. Et c'est logé, nourri, blanchi. Hein. Donc c'est quand même techniquement parlant, avec une femme, femme, enfant, prof d'arts martiaux, chef d'entreprise, c'est la Covid qui a arrêté ça. Mes cuisiniers, c'est-à-dire que j'en ai parlé tout à l'heure, mais je faisais à manger tous les midis pour toute l'équipe.
Ah ouais.
Ouais. Donc entre 8 et 15 personnes, tous les jours. J'ai toujours fait à manger. Donc j'étais occupé. Je dormais très bien. J'étais occupé, mec. Donc les temps ont été. Voilà. Ça m'a coûté un mariage, ça m'a coûté des trucs, c'est sûr que. J'ai peur. Donc après on a réduit un peu la cadence, on apprend un peu moins, hein, tous les deux mois, c'est déjà pas mal. Donc mais ouais, on a 23 shapers.
C'est ça, c'est ça.
On a 23 shapers.
Ah, c'est toujours les mêmes.
Non, il y a une rotation, il y a qui reviennent pas spécialement parce qu'on n'a pas bien vendu. Ou qui vont voir ailleurs, mais dans l'ensemble, c'est quand même c'est pas évident comme force de frappe de faire 100 boards. Si tu veux, le prix, ça va de 100 balles à par planche à 400 balles par planche. Donc, c'est faut avoir la trésor. T'as pas la trésor, bah, c'est un peu plus route. Et donc, du coup, les shapers, ils peuvent te préférer à quelqu'un d'autre. Moi, ici, t'arrives, t'es reçu, t'as tout ce que tu veux, t'as une bagnole, t'es autonome, tu veux surfer, tu vas surfer. Du moment que tu fais le travail, c'est pas un problème. Tu veux rester une semaine de plus, une semaine de plus, on s'en fout. Tu fais le taf, tu vas serrer la main au client, tu discutes avec 2-3 gars quand même, tu fais un peu ton social. Une fois que c'est fini, t'es payé, et puis voilà. Mais ça, il faut avoir les reins solides pour le faire. Tu peux pas. C'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde. Parce que c'était un très gros sacrifice personnel. Et ça demande une. Ça demande une trésor que tout le monde n'a pas pour pouvoir faire ce genre de truc. J'ai, voilà, je veux pas donner de nom, mais j'ai des gars qui viennent, qui chèpent. Ils peuvent chéper 100 planches en une semaine et qui repartent avec 12 000 euros. Voilà. Et ils font ça, c'est des mercenaires. Ils font. Pas de problème. Donc il faut avoir la trésor et être capable de le faire. Ouais. Il faut alimenter en pain, hein, il faut. Ça nécessite beaucoup de.
C'est toute une organisation.
C'est une organisation.
Faut derrière, ça suit vos glaces et tout.
Ouais, parce que derrière, tu dis juste, bon, on l'a payé, maintenant, ouais, les gars, il faut qu'on les vende
100,
et que. Et il faut y aller, les magasins les attendent et tout, il faut. Ouais. Mais c'était une époque. Je pense que notre. Notre schéma économique actuel, il est en train de changer et c'est et beaucoup plus compliqué que ça n'a été. C'est, on vit une période un peu compliquée en ce moment. Je pense qu'on est moins comme ça a pu être. Les shops commandent moins, les clients, il y a une plus grosse offre. Il y a beaucoup d'asiatiques, de produits asiatiques sur le marché. Donc du coup, on se retrouve à batailler quand même ferme pour faire valoir la qualité. Les performances des planches. C'est plus dur, je pense, pour les shapers à l'heure actuelle. En ce moment-là, il y a une période quand même assez compliquée. L'après-Covid, il est dur. Bon, nous, on travaille, on fait encore beaucoup de collabs, donc on est un peu dans. On subit pas la tempête. Mais il y en a qui. J'ai vu une photo, là, hérissé à Surfboard, là. C'était triste, quoi. Le mec, il est dans. Il y a une photo de lui, il est dans son shipping bay. Il regarde par terre, et il y a marqué. S'il vous plaît, passez-moi des commandes, j'ai besoin de bosser, quoi. Le mec, il a plus rien à faire. Là, il y a 2 semaines, hein, c'est. Ah, c'était. J'ai eu le truc, j'ai fait putain, c'est dur. Puis voilà, t'entends des histoires de mecs qui triment quand même. Je trouve qu'on est à un moment où c'est quand même compliqué, quoi.
C'est-à-dire que maintenant, c'est tellement internationalisé, tu peux commander à peu près ce que tu veux, du shaper que tu veux dans le monde.
Alors, le change qui quand même le change nous protège.
Ouais.
Le transport il est ultra cher, mec.
Ouais.
L'un dans l'autre, quand on a un Américain, un Australien qui vient ici, je suis sûr que tu gagnes 200 à 300 balles en la commandant chez nous que à la faire venir.
Ouais.
Et franchement, pour revenir des États-Unis, on y était en novembre. C'est pas mieux fait qu'ici, hein. Sincèrement, on utilise la même matière première, c'est le même mec qui l'achète, c'est étalé de la résine sur la fibre de verre. Enfin, très franchement, ça sera pas plus costaud que ça soit fait aux États-Unis qu'ici. À part que si t'as un problème, que ce soit un Français qui fait ta planche, non, le reste c'est exactement la même. Il n'y a aucune raison de faire ta borne, enfin de commander ta borne aux États-Unis qu'ici, quoi. On a travaillé, là c'est une anecdote comme une autre, mais McCallum pendant un temps il était très réservé sur ses commandes. Il voulait en faire un minima et des fois il verrouillait à 50 planches par an. Et il disait bah ça y est, j'ai fait mes 50 planches aux États-Unis, mais allez, pour l'Europe je vais en faire 15 ou 20, je vais en faire 20 à un prix de ouf. Hein. Et quand il venait chez nous, on avait des Américains qui n'avaient pas pu en commander aux États-Unis, qui les commandaient chez nous. Parce que lui, il avait définitivement terminé d'en faire aux États-Unis. C'est comme ça. Donc, oui, il y a. Le marché, il est plus comme ça maintenant. Ça a changé.
Mais du coup, vous continuez pour l'instant chez Shapers Club?
Ah oui.
Ça continue à marcher?
Oui, on a. Malcolm, il est venu très récemment. Malcolm, ça fait 14 ans qu'on travaille avec lui. Malcolm Campbell, ça fait 14 ans qu'on travaille. Quasiment. Jeff McCollum, quasiment pareil. McCallum, c'était Tristan. C'était Fantastic Acid qui nous l'avait fait venir. Il était fan des Mini Simons et le reste. Je pense qu'il a quand même pas mal influencé Jeff, le Tristan. Il a dit, mais lui, il faut le faire venir en contact et tout. Il fait des mini Simon, c'est trop bien et tout. C'est la nouvelle planche, cette espèce de petit truc et tout. Et puis Jeff, il faisait ça, mais il faisait des spoons, beaucoup de spoons. Il faisait des flextels que Tristan fait maintenant aussi beaucoup. Je pense qu'il a, eu une petite influence de Jeff. Ça, c'est donc c'est plus Tristan qui nous l'a fait venir, mais. Malcolm, c'est un pote anglais qui me l'a fait venir, qui me l'a fait rencontrer. Il avait beaucoup shippé en Angleterre. Et après, il est venu ici. C'est pareil, Malcolm, par exemple, il nous a dit, par exemple, moi, le business, comment je le conçois, c'est forcément comme vous le concevez. Jamais j'expédierai des planches en Europe. Je viendrai forcément les fabriquer chez vous. Moi, j'ai envie qu'il y ait un partage d'expérience. J'ai envie que vous appreniez de moi. J'ai envie d'apprendre de vous. Et je casserai complètement... ce lien qui nous unit, si je venais à expédier mes boards de chez moi à la France, bien que je reçois plein de commandes, je le ferai jamais, parce que moi j'aime ce lien qu'on a entre shippers. Donc jamais vraiment effrayé de la possibilité que les gens commandent de loin et ça se livrait. Ça arrive pas, ça. Okay. Ça peut, mais bon, je sais que nos shippers, ils préfèrent aller dire non à 3-4 gars qui vont leur commander des planches à l'année et venir ici et en faire 60.
Mmh. Oui, bien sûr. Puis comme tu dis, c'est pas du tout la même démarche.
C'est pas la même démarche.
Donc, t'es avec les gars qui glacent. T'es...
Ouais, enfin, t'es mais on a vraiment... C'est un business familial. Jusqu'à temps que mon père parte, il venait tous les jours, il passait l'aspirateur, il se mariait avec les gars, il les invitait à bouffer. Mon père, il parlait... tellement mal anglais qu'il n'y a qu'au Sénégal ou au Kenya qu'ils arrivaient à se comprendre, parce que c'était des nations où ils parlaient franco-français, franco-anglais. Mais sinon, dans ses voyages, quand il était aux États-Unis, je faisais l'interprète. Sinon, les shippers le kiffaient, quoi. Et donc, il y avait ce lien très, très familial qu'on a toujours, aussi bien avec les artisans qui travaillent avec moi que les gens qui viennent et qui partagent tout à la maison, quoi. Ils vivent dans une. J'ai une petite dépendance où je les mets maintenant, mais pendant très longtemps, les shippers, ils dormaient dans la chambre d'amis. J'ai eu des scènes à table avec Nick Purchase, Malcolm Campbell et qui c'est qu'il y avait d'autres. Il y avait Larry Mabille à table, à moi. Je leur faisais à manger et tout, c'est à discuter. Ah, mais tu sais, moi j'adore ce que tu fais et tout. On travaille. Enfin, je suis San Diego, t'es devant toi, mais toi, moi j'adore ce que tu fais. Ah, ben moi aussi j'adore ce que tu fais. Et puis t'as le Nil qui argumente derrière et tout. Mais moi aussi, les gars, j'adore ce que vous faites et tout. Et puis ça se marre, ça se raconte des histoires et tout. Et puis t'es témoin de tout ça, c'est fou. J'en ai trop plein de. J'ai du Troy Elmore qui est venu avec Tanner Prairie. Avec des histoires aussi, enfin, le Shippers Club, en fait, il a vraiment pris son nom quand on s'est aperçu de ça, qu'en fait, on était à un endroit où les shippers venaient se rencontrer. Et il y a eu plein de fois où, par hasard, hein, un vol qui a été annulé, ou un gars qui n'avait pas fini ce qu'il avait à faire, il a repoussé, et le deuxième shipper devait venir. Et donc, du coup, des fois, il dormait dans la même piole. Un truc qu'ils auraient jamais imaginé, toi. Et puis ils étaient trop potes et puis trop contents de s'être rencontrés. Et si on n'avait pas été là, ils se seraient jamais rencontrés de leur vie. Ça reste un milieu où il y a une sorte de confidentialité et de, tu sais, je sais pas, ils veulent pas trop se dévoiler. Et même s'ils s'apprécient, ils vont pas décrocher le téléphone en disant « Tu sais, mec, j'adore ce que tu fais et tout. Et si on faisait une petite collab ou si on faisait un modèle en commun ou si on faisait… » ça reste… Mais quand ils voient, ils sont quand même enchantés, machin. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. J'ai eu beaucoup de duos.
Ok.
Ouais. Beaucoup de duos. Des fois, c'est des potes. Par exemple, Neil Purchase et Joel Fitzgerald, souvent. Neil Purchase et puis Bo Young. Tanner et puis Blake de Blake Peters enfin Peters Blake de Panda ouais enfin Neil et puis Roger Neil et puis Beau pour les 25 ans Roger Hines Le pauvre vieux, il avait passé un sale moment. Parce que les Australiens, qu'est-ce que ça boit, ça dormait dans la même piole. Oh, pour le Roger, il a fallu que je le prenne et qu'il dorme avec moi à la maison parce que les autres étaient des furies, quoi. Ça rentrait à pas d'heure. Complètement raide, enfin. Ah, des histoires. Hein. Mais voilà, on a un crew et on a un club de gens qui nous ressemblent.
Ouais, c'est vraiment un club, quoi.
Ouais, c'est vraiment des gens qui passent. Qui, au partage final, la même on a la même amitié.
Ouais. Voilà. Au final, le nom était bien trouvé.
Le nom était super bien trouvé. Ouais.
Et du coup, après, vous avez toutes les marques. Donc, il y a UWL.
UWL, c'est la base, hein, qu'on a segmenté avec Cardinal de façon à bien splitter tout ce qui était voilà, confortable, facile de prise en main. Donc, Minimalibu, Longboard, Funboard, tout le truc qui est quand même les meilleures ventes. Voilà, en France, on vend quand même vachement plus de planches confortables que de planches perf. Et de façon à que les deux univers soient distincts, on a mis le logo le trident là, Cardinal à part. Donc on a UWL, Cardinal, et on a la marque un petit peu plus post-moderne avec résine teintée, gloss, glaçonne, avec des planches un peu plus grosses, Key Addiction. Okay. Voilà, ça c'est les trois marques de notre création.
Et ça en termes de quantité, elles s'équivalent l'une à l'autre ou il y en a qui sont quand même plus. Enfin, là tu viens de dire que
en fait, on était quand même plus. En fait, on est, le truc c'est qu'on est limité ici en quantité. Disons qu'au max du max, on peut faire 1000 planches par an. On peut pas faire. C'est compliqué de faire plus. Donc, à l'heure actuelle, les collabs qu'on fait nous prennent plus de temps. Enfin, disons que pour faire une planche collab, c'est le temps de trois planches classiques, grosso modo. Donc, quand on fait des collabs, on arrive à faire à peine 10 planches par semaine. Okay.
Parce que
c'est la perfection.
C'est vraiment l'exigence. C'est aussi que vous testez des trucs. Non. Et que...
C'est l'exigence. Non, t'as des prototypes qui sont faits, qui sont validés. Une fois que le prototype est validé, on éclate la fabrication du prototype. On explique. Le process de fabrication au client de façon à ce que après bon c'est un travail de listage de temps de coûts et ensuite ça rentre en prod et là gars c'est quand on a 100 200 planches c'est la même elles doivent être exactement pareilles donc on a des contrôles qualité réguliers toutes les 10 planches donc tu as des gens de Paris qui viennent et qui contrôle la qualité des planches. Mmh. Et ce qui est KO est KO. Ce qui est KO ne peut pas être vendu. Ce qui est KO doit être détruit. Donc il n'y a pas les planches. Il n'y a pas de seconde main. Il n'y a, ouais. A pas de marché parallèle. Mmh. Donc constat huissier, destruction des planches.
Ah, okay. Ouais. Et ça, c'est des collabs que pour des marques de luxe
ou ouais, de principalement, luxe. Quoi. De luxe, bon, après, on fait d'autres marques. On fait des marques qui sont à part. On fait. On peut faire de la voiture. Voilà, on peut faire on peut travailler pour Porsche, on peut travailler pour Renault, on peut faire des trucs qui n'ont rien à voir. Enfin, on fait de tout, on fait du display pour du champagne, on fait t'as de trucs. Du moment que ça reste une planche de surf, on le fait.
Ouais, voilà. Ouais,
okay. Mais avec des critères d'exigence qui sont qu'on répartit sur 6 à 7 personnes qui font partie de la prod. Disons que tu serais tout seul à faire du travail d'excellence, tu pourrais pas travailler pour ces gens-là. C'est pas possible. Parce que tu pourrais en faire une, tu pourrais en faire deux, tu pourrais en faire trois. Mais en faire 100, tu pourrais pas. Parce qu'il y a un moment, toi tout seul, tu feras une petite erreur. Hein. Y a un défaut, il y a quelque chose que tu feras mal. Ne serait-ce qu'une pollution atmosphérique qui tombe sur la planche, un petit grain de quelque chose, un poil de fibre, de microfibre de ton t-shirt, quelque chose, c'est KO. On jette. Donc, le fait qu'il y ait une personne pour chaque étape et qui sache parfaitement faire et super spécialisé, ouais. C'est parfait. Attention, tous les gars qui travaillent ici sont capables de tout faire. Il y en a un qui est malade, il prend la place de l'autre. Ils peuvent tous shaper, peuvent tous glacer, peuvent tous poncer. Mais on est obligé de segmenter. Je peux pas faire des rotations genre bah, la semaine prochaine, toi qui shape, machin. Non. T'as ta spécificité, tu la gardes. Mais par contre, s'il y a besoin de renfort, tu sais toujours glacer, ils savent tout faire.
Et comment t'en es arrivé là? Parce qu'il faut les former.
Il faut les former. C'est 2 ans environ. Entre 1 et 2 ans pour être formé.
C'est un temps que tu prends même si tu sais que derrière ils vont pas shaper, qu'ils vont poncer parce que t'estimes que ça,
alors,
ça se rejoint,
le shape c'est quand même bien, c'est, t'as vu la machine travailler, il y a non, il y a non, pas non plus grand importe, chose à finir, d'accord,
même le glace ou le ponçage ou
le glace et le ponçage ou, le glace est un apprentissage qui est lourd, qui est compliqué en effet, et ça prend du temps. Ils apprennent par-ci par-là, ils se font leur board, ils ont droit à une à deux planches par an gratuites, donc ils se font leur planche et puis ils se débrouillent. Ils apprennent avec bah voilà, les gars ils savent faire, ils leur montrent, tu sais, quand t'as quelqu'un qui l'a,
oui,
pour t'aider mec, tu fais 10 fois moins d'erreurs et tu apprends beaucoup beaucoup plus vite s'il est juste derrière toi, puis il va pas laisser la sauce prendre et puis le truc en gel, ah t'as vu ça a pris, il est trop lent. Non, et là il t'aide, il met le coup de squeegee, il rabat le rail et puis il dit juste moi là il faut être un peu plus rapide parce que t'as vu là je t'ai aidé, mais t'aurais été tout seul, t'aurais tout foiré, donc mais ils ratent pas, ils y arrivent. Donc ouais, il y a une formation
mais qui se fait maison. En interne avec l'équipe,
ouais,
quoi.
Ouais.
Donc, tout le monde s'apprend un peu le boulot de l'autre et
ouais, on est obligé. Et puis
ça permet de comprendre,
ça permet d'apprécier un peu la finesse de l'un et de l'autre, chaque étape, nous on a vraiment segmenté, j'ai envie de dire, de façon un peu intelligente, parce qu'il y a toujours un peu des rivalités entre chaque les trois corps de métier, on va dire, le shaper, le glaceur et le ponceur. Il y a toujours un petit peu, ah, le shaper, putain, l'edge et tout, là, c'est channel et tout, c'est trop profond, on fait chier, quoi, tu vois. Et puis après, t'as le ponceur qui va dire, ah non, mais les hautes côtes, qui m'a fait, regarde-moi ça, il y a des grumeaux partout, fait trop chier et tout. Donc, chacun est responsable de chaque étape, et quand il passe le relais à l'autre, le travail est parfait. D'accord ? Donc, si le travail est mal fait, ça vient, c'est toi. C'est ton problème. Donc, c'est à toi de le résoudre. Donc, il n'y a pas d'animosité entre les trois corps de métier. On est tous raccord. C'est-à-dire, quand je pose une planche, le mec, il dit hey, c'est quoi ça, là, t'as fait c'est un trou, c'est... Pourquoi les channels, ils sont comme ça, là? Tu prends ta planche, le Renault, tu m'adoucis le truc, tu me fais un truc bien, puis tu reviens. Le glaceur, quand il a fini la board, il donne la board au ponceur. Le ponceur, c'est lui qui fait sa haute côte. Il peut pas dire au glaceur, hey mec, c'est quoi ces grumeaux là, tu m'as laissé le truc, il y a plein de cailloux sur la board, je pense pas ça. Tu te démerdes. Non, c'est le glaceur qui fait ses hautes côtes, donc il n'y a pas de problème. Quand il prend sa planche, elle est nickel. Et s'il y a des grumeaux, bah, c'est à lui de gérer son problème, oui, de grumeaux. Et tout est comme ça. Donc on a une bonne entente, on n'a pas de rivalité ici. Tous les gars s'entendent très bien les uns avec les autres.
Et tu dis que vous étiez 16?
Ouais, on est 16.
Ça inclut le shop, le bureau, ouais, tout ça.
Je fais un total avec mon frère et moi inclus dedans, si on est 14.
Ok. Et à l'atelier en soi, du coup, tu m'as dit tout à l'heure.
Alors j'ai deux ponceurs, j'ai deux super ponceurs, deux jeunes. J'ai Lucas et puis Charlie. On va dire que j'ai deux glaceurs officiels. J'ai Bruno et puis Antoine. J'ai Antoine aussi qui fait de la strat et qui back shape. J'ai moi au shape. Et voilà, on est 6. On est 6 à la prod. Ouais. J'avais jusqu'à septembre un opérateur machine qui lui s'occupe de tout ce qui est découpe, impression 3D, et on fait, parce qu'on fait d'autres trucs à côté. Que j'aimerais bien récupérer, Titouan, que j'aimerais bien récupérer en avril pour la nouvelle machine. Et voilà, on a un truc qui tourne comme ça. À la prod, ouais, 6, 7.
Du coup, les designs, c'est toi?
Design, c'est moi.
Tous?
Ouais. Okay. C'est moi. Moi, je suis un peu.
Tu passes beaucoup de temps devant l'ordi, du coup?
Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Moi, je. J'ai perverti beaucoup de monde ici. Beaucoup de shapers qui travaillent à la main, qui maintenant travaille à la machine à cause de moi. Donc j'ai scanné beaucoup de planches, j'ai repris beaucoup beaucoup de dimensions de planches. Je suis assez rapide et bon dans ça, et je redessine les planches. Donc je travaille pour d'autres gars. Quand il n'y a plus d'espoir, je reçois le fichier et j'essaie de l'harmoniser. Alors je suis pas le meilleur, il y a bien meilleur que moi. Quand il y a Thomas Villemain, la chef 3D, qui vient et qui me fait une démo, alors regarde, on peut faire comme ça. Et qui en 3 secondes il fait un truc incroyable. Bon, je me dis, j'ai encore beaucoup à apprendre, je connais pas toutes les fonctionnalités du logiciel, il est très très fort, mais j'ai perverti Thomas Bexon, c'est sûr. Il fait du shape manuel, là il a fait le boardroom, Mais il m'a dit, ça fait 6 ans que je n'en ai pas fait. Enfin, la dernière fois que je suis venu que j'en ai fait, c'était chez toi, presque, tu vois. Et depuis, bah, je te coupe tout à la machine. J'ai scanné toutes ces planches. J'ai fait toutes ces planches, je les ai scannées et toutes ces planches, je les ai digitalisées et je lui ai donné. J'ai fait ça pour McCallum, j'ai fait ça pour trop plein de shapers. Il y en a plein qui maintenant ne shapent plus à la main à cause de moi. Je suis désolé.
Toi, tu shapes encore de temps en temps à la main ou...
Très rarement. Quand ma femme. Quand Elsa me dit allez, viens, on va faire un truc. Moi, j'ai une idée, j'aimerais faire ça. Souvent, on shape à la main. On le fait à la main. Mais c'est comme le vélo, franchement.
Ouais.
J'ai shapé 10 ans à la main et j'ai commencé à la main. Je pense que j'aurais commencé à la machine et j'aurais fait à la main. Ouais. Je serais nul à la main, j'y arriverais pas. Mais là, j'ai commencé à la main. Je fais pas un truc propre, hein, c'est pas ouf, mais je peux. C'est pas. J'ai tout de suite le truc. Franchement, c'est très bizarre, je l'ai.
Ouais.
Ouais, je l'ai tout de suite.
Et les gars qui viennent en résidence, par contre, certains Enshape.
Ah bah ouais. Roger, Enshape. Bob Misven, Enshape. Ah non, il y en a, Enshape. Bah, Tapi, le japonais là qui est venu, Enshape, tout en Enshape. Avec des. Il nous a fait des. Des edgeboards tout en Enshape. Puis il y en a qui viennent. Enfin, moi, j'ai eu du Neil Purchase Enshape. Les Australiens sont fous, c'est dingue. Et le mec arrive. Puis je le vois, les mains dans les poches et tout. On va le chercher à Bordeaux. Il n'y a rien, les mains dans les poches. Et bah, ce sont des affaires. Oh, c'est vrai que là, avec ma combi, tout le truc. Non, mais des affaires de Enshape. Oh, je prendrai tes affaires et tout. Bah, t'es quand même gonflé quoi, tu viens chez P, t'as rien, oh, j'ai plus besoin de rien. T'as un rabot? J'ai dit ouais, j'ai ça là, c'est un rabot de Laurent Merlin. Ah, ça me va. Et les mecs, c'est ils shapent à une main, les Australiens. Ils shapent à une main, ils changent pas la profondeur. Ils ont des rabots qu'ils achètent au Laurent Merlin du coin, tu vois. C'est juste clac, 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 ils mettent 2 mm de profondeur, ils shapent à une main, ils poussent, ils coupent, ils font des side cuts, ils font des trucs comme ça, gna gna gna, et c'est tout. Et. Ils venaient avec rien. Les gars viennent les mains dans les poches, ils en ont rien à branler. Ils prennent tes outils, toi t'as des trucs à faire. Mais tu me dis, mais il est où mon surfrant, mon truc? Je suis là dans le chef d'à côté, le gars il m'avait tout piqué, il chépait avec les trucs. Donc du coup, bon, on a mis les choses un peu au point. Si tu veux pas, je vais te simplifier la vie, arrêtez le handshape, on va passer en machine. Mais viens avec 2-3 outils s'il te plaît. Et depuis, il travaille comme ça. Donc. Ouais, Neil, on a refait ses designs. Joey Fitzgerald, on a refait ses designs. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein avec qui on a refait le design. De toute façon, que ce soit carré et que ça fonctionne bien. Parce que sinon, ils sont ingérables, ces gars. Mais les plus impressionnants sont les Américains. Larry Mabille. Larry Mabille, il vient. Il a une valoche, mon gars, massive. Il ouvre le truc et c'est des outils que tu n'as jamais vu de ta vie. Il vient. Il a 2-3 skills. Tous les petits rabots, hein. Il y a un rabot par type de latte. Et si c'est pour le no, si c'est pour le mineux, si c'est pour le tel, enfin, c'est des trucs. C'est des. Je sais pas, c'est des mecs qui font même pas de la menuiserie, c'est de la marqueterie, ils font des trucs. Ils sont tellement calés, mais c'est des experts quoi. On dirait des snipers, ils arrivent avec la valoche de sniper. Bon, t'as pas un fusil dedans, mais. Des outils que j'ai jamais vus. Et ils les disposent, tu sais, ils arrivent dans le truc, c'est cérémonial. Ils arrivent, mais ça prend une heure, voire deux heures des fois. Et ils disposent tout le rabot ici, comme à la maison. Le petit, la petite cale là, le surfrom là, la feuille de screen ici. Et le mec, tu vois, il prend un peu notion de la salle. Je tends la main, j'ai mon truc ici. Ouais, là, ah non, un peu trop loin. Hop, de toute façon, que ce soit efficace. Tout est regroupé. Enfin, c'est calculé, quoi. C'est. Et après, quand ça se met en route, c'est comme régler sur du papier musique. C'est parfait. C'est trop bien. Ils sont hyper efficaces. Ça va vite, c'est beau, c'est propre. Là, on a fêté les 50 ans de Malcolm cette année-là. 50 ans de Shape. C'est fou. Donc.
T'as une expertise.
Là, les gars, c'est. Ouais. Et encore, lui, il est tellement facile à vivre. Je ramène un pain des fois avec celui-ci, tu vois. Il y a quand même du pré-shape. Je fais du pré-shape parce qu'on n'utilise pas du Clark, on utilise du Burford, des trucs. Donc des fois, les plugs, ils sont un peu différents. Et donc, du coup, des fois, ils ont un peu de mal. Ils disent, ah putain, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? C'est gros et tout. Ça ressent pas à mon Clark Foam. Donc, du coup, on est obligé d'ajuster, de changer des trucs. Donc, je leur pré-shape un peu. Il y a encore du chèpe rabot, il chèpe. Il chèpe
tu pas, dégrossis.
Je dégrossis, tu vois, ça ressemble un peu pas à un pain Clark, pas un pain US, mais c'est quand même proche, mais il continue à chèper à la main. Et des fois, je le ramène, tu sais, ah, putain, mec, là, il y a de la croûte et tout, est-ce que tu vas réussir à. Oh, t'inquiète et tout, et puis il fait ce qu'il faut, puisqu'il y en a d'autres, c'est des divas. Plus c'est du chèpe performance, plus t'as un martiaux ou un truc comme ça, plus le mec, le pré-chèpe, il doit être genre parfait, parfait. T'as une pastille de skin qui reste sur le top ou un truc comme ça, il la prend pas. Non, non. Puis c'est ça clean, mais ça clean juste. Tu vois presque encore les groupes arriver. Et ils disent juste ça, ah, pas plus. C'est tout. Faut que tu laisses comme ça, c'est comme ça, on touche à rien et tout. Ça prend la planche avec des pincettes, ça la pose. Il me dit, des fois, je demande des conseils et qu'est-ce que t'en penses de celle-ci? Ah, je peux pas la toucher. Parce que mes mains sont. Elles sont habituées. À toucher mes rails. Et mes rails, c'est mes rails. Et il n'y a que moi qui sais les faire. Donc tu vois, quand je chèpe mes rails, j'ai là cette sensation et je vais me polluer si je touche d'autres rails. Donc je ne touche pas les mini-malibus, je ne touche pas les longboards, je ne touche pas les funboards. Je te jure, c'est comme ça. Martiaux, il chèpe que les planches team. Encore que je pense que le Joe, il en chèpe aussi. Et quand il y a, genre, ils avaient pendant un temps une sorte d'évolution, une planche avec des rails un peu plus gros. Ah, si vous ne voulez pas y toucher, il dit, ça c'est. Je peux pas. Si je touche ça, ça va modifier ma sensation, mes sensibilités de tel truc, je peux pas. Ah, il y en a des. C'est... Mais après, le mec, il est champion. Il fait des boards à Toledo, ouais, il est champion du monde. T'as envie de dire, bah ça. Il avait raison en fait. Moi, je me foutais de sa gueule, mais en fait, il disait vrai. Alors, moi qui sais plus ou n'importe quoi, je suis pas prêt d'être champion du monde. Hein. Donc,
et comment tu te positionnes par rapport au handshape? Parce que toi-même, tu dis ouais, c'est à cause de moi qu'ils sont passés à la machine.
Non, mais c'est génial le handshape, c'est top. Mais quand tu fais de la team rider, la board team rider, même avec la machine, même avec l'intranet qu'on a, c'est-à-dire qu'on sait quelle fibre de verre on a pris, quelle résine on a pris, on a l'attage, on a tout, on a la densité du pain, on reprend la même recette, on fait la même board. C'était une planche magique pour le gars. Tu lui fais la même board, il la surf et il dit ah, il est bien, hein, c'est une bonne planche. Mais pas. Il y a un truc. Et des fois, un mec, tu vas en faire 3-4. Ah, ça y est, j'ai retrouvé ma magic board. 3-4 fois la même. Même pain, même lattage, même strat, même tout. Donc les board team, souvent, faut les faire dans la foulée. Tu les découpes, tu les chèpes toutes, tu les strates toutes, tu les ponces toutes en même temps. Et ça dévie pas. Et encore, même quand tu fais 4 fois la même, il va la supporter, il va la prendre, celle-ci, celle-là, peut-être, je la garde, celle-ci aussi. Il va les surfer et après, il va dire, hop, celle-ci c'est la magique, les autres sont pas trop mal. Celle-ci la magique pour la compète, je vais m'entraîner avec les autres et je ferai. C'est ça.
Tu crois pas qu'il y a une part de psychologie?
Si, aussi, ouais, c'est très possible. Mais j'ai eu quand même des gars qui m'ont, très, très bon, qui m'ont trouvé le cul ouais, sur des trucs. Qui était capable de sentir des trucs, même de la wax, de la wax sur un lit, il y a des mecs qui le sentent quoi. Donc
après déjà
non mais nous la, moi je fais des tests, nous on fait des tests. Ouais. C'est-à-dire que des fois je mets pas les dimensions et je dis pas quel strat on a fait, je dis rien, c'est moins d'infos. Quand on avait travaillé sur le comment ça s'appelle le Salomon Project les bords bleus
les
escorts. Donc on avait fait deux modèles. Et il nous avait dit, les gars, quand vous ne donnez ni le poids, ni la strat, vous ne donnez rien du tout d'information au surfeur, parce que vu qu'elle flotte plus, ben, ça flottait grave plus, parce que c'était complètement creux et vide. En fait, il faut qu'ils surfent en dessous des dimensions qu'ils ont l'habitude de surfer, sinon ça surflotte et ils n'arrivent pas à les contrôler, ça ne le fait pas. Et le poids, c'est pareil, ça psychote. Ah là là, elle fait 2,3 kg, elle est trop lourde, je ne peux pas surfer avec, moi il me faut du 2,1 kg. Toi, tu dis, vous mettez rien sur la board, ils surfent, soit ils aiment, soit ils aiment pas. Et après, vous discutez avec eux. Et souvent, et c'était vraiment un blind test qui était très très efficace parce que les mecs revenaient en disant, ça putain, c'est une putain de board, mais mec, l'épaisseur, tout va bien, mais ça c'est ma magic board. Et je le sais, c'est les mêmes dimensions que ma blanche que j'ai l'habitude d'avoir et tout. Et le poids est trop bien. Et alors tu disais, bah alors c'est pas du tout la même taille, c'est pas la même épaisseur, et elle est beaucoup plus lourde que ce que tu avais sur l'autre. Et le mec dit, mais non, c'est pas possible. Et là, on remesurait, on machinait, parce que le gars te croyait pas. Et tu remesurais derrière lui, t'es là, ah ouais, bah. Ah bah ouais. Donc le blind test, c'est hyper important. Ouais. C'est faux. Et donc, moi, ça m'arrive de tester des résines, des nouvelles résines, des nouvelles fibres, des nouveaux trucs. Donc on va faire, des fois les gars ils commandent 2-3 fois la même planche. Et donc il y en a une dans l'eau qui est comme d'habitude, et les deux autres, on va pas trop en parler parce que voilà. Parce que sinon ils vont nous les ramener, il faudra qu'on les refasse. Je devrais pas dire ça comme ça, mais enfin je le dis quand même. Et donc les mecs, ils disent tous putain, les bonnes planches, mais alors il y en a une, celle-ci, elle est magique. Et mec, ça mise. C'est le pain que je pensais qui était mieux que les autres. Ouais. C'est l'Astra Tala. Mais on fait des tests juste résine. Donc on prend toujours le même pain, on prend toujours la même fibre et on teste deux nouvelles résines. Et le mec va te dire bah celle-là, mais celle-là 100 fois, l'autre pas du tout. Et on n'a rien changé que la résine. Donc sans en parler, les mecs, ils ont quand même. Il n'y a pas que dans la tête, ils sont capables de te dire ouais. Ah non. Vraiment.
Ouais, en même temps, la planche de surf, ça paraît comme ça être un objet très clean et tout, mais en fait, c'est hyper organique. Quoi.
Ah, complètement.
La mousse, la latte en bois, la fibre, la résine qui est imprégnée différemment,
bah, ouais,
le ponçage et tout.
C'est
pas,
hyper
c'est pas
important.
Du tout industrialisé en fait. Quoi.
Bah non, mais une planche magique, c'est 2,2 kg, c'est la norme. 2,3 kg, tu reponces pour arriver à 2,2 kg. 2,1 kg, tu remets de la résine. 2,2 kg, c'est ça. Planche team, 2,2 kg. Sinon, c'est pas. Ça va pas. Après, bon, il y en a, ils s'en foutent, ils peuvent être plus haut, mais une planche team, voilà, t'es à 2,2 kg.
Selon les cotes, ou c'est vraiment un truc que vous tenez
Ah non, même avec les cotes. Mais après, tu sais, les gars, ça varie pas de ouf. Hein.
Oui.
Ils prennent des micro-boards, c'est facile de faire ce poids-là. Hein. Ouais. Ce qu'il faut essayer, c'est pas de les faire trop lourdes, parce que tu les as chargées, parce que t'en as marre qu'ils te les ramènent pliés en deux tous les 4 matins, donc du coup, t'as rajouté un petit peu plus de fibre de verre. Ça se sent un peu plus raide, un peu plus ceci, un peu plus cela, et donc elle est un peu plus lourde. Et donc à un moment ou à un autre, le poteau rose va être. Enfin, ça va être vu, mais tu seras obligé de t'expliquer. Mais bon. Okay.
Je reviens un peu en arrière. Je dézoome. Toi, ton rôle, du coup, chez WL, c'est de tout chapeauter finalement. Quoi. Tu fais un peu de tout.
Je suis un peu de tout, ouais.
Du design.
Je fais un peu tout, oui. Alors, ça prend pas, c'est pas très. Le design est pas. Ça prend très peu de temps dans ma vie. Dans la semaine, ça prend pas beaucoup de temps. Sinon, je découpe, je shape encore, beaucoup. Voilà, je suis pas à la strat. Je peux, hein, mais je suis pas à la strat. Ils travaillent mieux que moi, donc j'ai pas de raison d'aller là-bas. Et après. Ces dernières années, un peu plus chef d'entreprise, donc beaucoup de réunions, Je m'occupe pas du commerce, non plus. Mais plus un peu dans l'image de marque et. Voilà quoi. C'est déjà beaucoup, ça prend déjà pas mal de temps.
Ouais, bien sûr.
Tout ça. Ouais.
Et le commerce, c'est ton frère du coup.
Alors, on a Ben qui s'occupe du. Qui est attaché commercial aussi. On a Thomas, on avait Gotham Lesco qui était notre directeur commercial, qui vendait très très fort aussi. Mais là, lui, il est parti, donc du coup, Thomas, ça fait quelques. C'était il y a un mois. Hein. Thomas, il y a eu un passage de flambeau, et Thomas est beaucoup plus sur le développement commercial maintenant.
D'accord.
Ouais. Avec les grosses boîtes, et puis voilà. Et puis après, Ben, il est plus pour tout ce qui est un peu shop et. Vente directe. Et après, on a Alex qui est au shop, qui lui s'occupe des ventes en ligne et du magasin physique en bas, là, ici, à Angoulême.
Autre question, vous avez un team, du coup ?
Ouais, on a un team, ouais. Bien sûr, on a un team. Il y a une vingtaine de gars.
C'est un team UWL ?
C'est un team. Il y a du UWL, il y a pas mal de Cardinal, il y a un petit peu d'Addiction.
Okay.
Alors c'est une bonne question, c'est en restructuration parce qu'il y a un petit peu beaucoup de monde, tous ne jouent pas le jeu parce qu'on leur demande des petits, on fait des planches, bon, certains ont des dotations, d'autres ont des prix, ce qu'on veut c'est qu'ils jouent quand même un petit peu le jeu sur des republications, on veut qu'il y ait de la métallisation derrière, on veut qu'on parle de nous, c'est l'objectif, c'est qu'on fait des boards,
c'est le principe d'un sponsor,
c'est ça. Donc, on voudrait voilà, qu'ils comprennent que c'est hyper important pour nous. Là, on passe à un autre cap. Et là, il faut que le team il soit structuré.
Et c'est toi qui gères ça aussi ?
Paul gère. Je gère un petit peu, mais je suis un peu le contact. Je suis un peu le.
Ouais. Là, t'es le contact, ouais.
Le contact un petit peu. Bien sûr, parce qu'on va parler planche. Mise au point de board, machin. Qu'est-ce qui est amélioré ? Donc, je suis là. Mais il faut qu'il y ait une personne intermédiaire qui fasse un peu de team manager. Ouais. C'est important.
Du coup, vous avez quand même des mecs sur les trois marques, quand ouais. même, ou WL qui ouais. est plus, comme tu disais.
Ouais, mainstream. Et donc, on a du longboard, ouais. classique, ouais. des trucs comme ça. C'est plus un peu prof de surf et le reste. Mais ce sont des leaders d'opinion, tu vois, donc des influenceurs, mine de rien. Ouais. Donc, ouais, ces gens-là, ils ont ce genre de mission. Puis après, voilà, on a des. On a Hermine, là, en towboard, qui vient d'entrer dans la team Red Herring à Nazaré. On a Mathéa Kili sur Tahiti, qui teste nos planches à Teopo. On a des gars qui sont un petit peu répartis ici. On a plus de hôtes locaux que de compétiteurs. Mm. Compétiteurs, franchement, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour gagner sa vie avec des compétiteurs. C'est très compliqué. Je sais pas,
en termes de nombre de planches,
quand je pense à, je sais pas, Dadisil ou RT qui ont des teams avec des putains de riders qui ça marche, c'est très très bon surfeur, hein. c'est génial de travailler ces gars-là, mais par contre ça demande une implication très très forte, beaucoup 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 de temps à passer avec eux, de mise au point, et à la fin, mec, tu gagnes rien sur ces planches-là, tu leur fais soit prix coûtant, soit tu leur donnes des fois. Il faut que derrière, t'as un deuxième shaper qui fait des boards pour des shops ou pour tes clients. Parce que quand tu commences à avoir, je sais pas, des mecs qui prennent 3, 4 planches, 5 planches par an et que t'en as déjà une vingtaine, tu te trouves à faire quasiment 100 planches de ta prod, de ta poche pour ces gars-là. V'là le temps que ça te prend, v'là l'énergie et v'là l'argent que ça te prend. Vaut mieux que tu gardes un ou deux gars, trois gars. Puis tu les bichonnes, vraiment, t'es tout pour eux et tu leur fais toujours ces 4-5 planches que d'avoir un putain de team avec plein de gars, mais finalement tu passes ton temps avec eux, tu fais pas de business, quoi. T'as passé toute ta thune dans du sponsoring, quoi. Je sais pas comment ils font.
Ouais. Vous faites de la répa, du coup?
Ouais, on fait de la répa. Ouais. Moi, j'ai appris énormément en faisant de la répa, donc souvent quand on me dit qu'est-ce que je pourrais faire pour commencer, de la répa. C'est pas que voilà, mais de la répa, t'apprends, mais tu vois. Tu rechèpes, en fait, tu trouves des solutions, des techniques. La répa, c'est génial. Franchement, ouais. Donc, on fait de la répa. On aura un gros coin répa à Marennes. Mmh. Parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de répa. Ici, je t'ai pas montré, mais on a un gros coin répa. Genre, on a 10 mètres de long de réparation à faire, évidemment. Mmh. C'est un gros truc aussi, la réparation. Et nous, on répare tout sauf les chinoiseries.
Et c'est vos gars qui se répartissent pour le faire, ou
on fait un truc comme ça. Peut-être qu'à Marennes on aura quand même quelqu'un, si vraiment on trouve que c'est important au niveau de la cadence, peut-être qu'on aura vraiment quelqu'un qui sera dédié à ça et qui fera autre chose à côté quand il aura fini son taf, comme du polish ou des trucs comme ça. On a besoin, quasiment toutes nos planches sont finies polish, donc on a besoin d'un bon polisher, mais on va avoir de la réparation et je pense qu'on aura quelqu'un pour la réparer. On a déjà quelqu'un un petit peu en vue pour ça.
Okay.
Ouais.
C'est dur de trouver des gens?
Non. Non. C'est dur de trouver des bons, oui. Il y a des gens qui se croient bons aussi, et qui sont pas bons. Donc il faut les. C'est plus simple presque d'avoir quelqu'un qui est humble, qui n'a jamais rien touché, que quelqu'un qui a plein de défauts, qui travaille dedans depuis hyper longtemps, qui a pris des mauvaises habitudes. Et on en a eu. Ouais, ça nous est arrivé plusieurs fois. Ils savent faire, hein, mais la cadence, le truc. Ça fume un peu trop, ça boit un peu trop, ça se déconne un peu trop et c'est pas sérieux. Et à la fin, le travail il est fait, ça va pour une factory un peu lambda, mais la qualité est pas au rendez-vous, pas assez. Sur 10 planches, il y en a 2 bien, les autres, ça, c'est moyen. Il faut remettre un peu, il y a touché, il est passé à travers, il faut remettre un peu de résine, machin, il veut pas le faire. Bon, écoute, on s'explique et puis. Voilà, maintenant on a des ruptures conventionnelles, on a des trucs qui font que c'est pas oui. Ça se fait, hein, et puis voilà.
Parce que vos gars là, ils sont tous. Tu dis qu'il y a des prestataires qui viennent de l'extérieur.
Vous alors on a des fois on prend des prestataires quand on peut pas fournir, ça nous arrive. Alors après, l'avantage c'est qu'on a eu plein de gars incroyables qui sont venus bosser et qui sont des ex-employés et qui peuvent toujours revenir. Je pense à Jocelyn Tanguy de Zeppelin Surfboard qui vient des fois nous filer un coup de main. On a eu des potes Florian Auger, on a Tristan, on a eu Paul, on a Yann Tichy, on a plein de gars qui sont venus, qui ont bossé avec nous et qui sont toujours des bons potes, et quand on a besoin d'aide, ils n'hésitent pas à venir nous filer un coup de main. Donc, ouais. Et après, bah, des fois, on a de l'Australien qui passe, on a des gars comme ça. Bah, si jamais il y a un coup de bourre et tout, on prend un mercenaire pour une semaine ou deux et puis ça nous soulage. Ça soulage les gars, ça descend un peu la pression. Ils font le taf, ils sont là pour ça. Et puis voilà. Ouais, ça arrive. Mais
vous avez votre réseau bien implanté. Réseau. Quoi.
Après, si tu demandes, si tu t'envoies un petit mail, tu fais une petite demande, gars, c'est rare que tu n'aies pas de réponse. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui répondent à ce genre d'appel.
Et voilà pour la première partie de cet épisode consacré à Renaud Cardinal. Écoutez la seconde partie pour en savoir encore plus sur le Shapers Club, l'organisation de l'atelier actuel et la création du nouveau, l'écologie, les influences de Renaud et son approche du shape. Merci Renaud d'avoir pris le temps de participer au podcast et d'avoir partagé ton expérience avec nous. Rendez-vous sur notre site ou sur notre compte Insta pour retrouver tous les liens du Shapers Club, du WL, de Cardinal et d'Addiction. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager et à vous abonner au podcast. Vous pouvez aussi suivre notre compte Instagram shape.ology pour être au courant des prochaines sorties et découvrir les photos et vidéos de l'épisode. Enfin, rendez-vous sur le site shapeology.fr où vous trouverez l'ensemble de nos épisodes, un lexique, un annuaire du shape français et plein d'autres contenus à venir. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.